Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. De plus en plus de victimes de violences sexuelles demandent réparation à l'enseignement catholique en hausse de 40%. C'est une information que vous révèle RMC ce matin. Dans le sillage de règlement de compte en série ces derniers temps, Emmanuel Macron convoque une réunion sur le narcotrafic ce matin à l'Elysée. Et l'ONU qui valide le déploiement d'une force internationale à Gaza.
L'importante vague de demandes de réparation de victimes de l'enseignement catholique.
Après l'affaire Betaram et des scandales qui ont suivi dans plusieurs établissements catholiques, les demandes de réparation dans l'église explosent. En hausse de 40% entre janvier et novembre par rapport à la même période l'an dernier. C'est un chiffre que vous révèle ce matin RMC. Un fonds d'indemnisation mis en place par l'église pour ces cas bien souvent prescrits. Louis Salé.
Victime de viol à 15 ans, Alain repense à ses années d'internat dans un lycée de région parisienne, les yeux humides.
J'ai subi des actes sexuels non consentis de la part d'un prêtre et d'un professeur de lettres de cette même institution.
Alain vient tout juste d'être indemnisé par l'église.
Ça fait un bien fou que l'institution dise « oui, nous avons failli ».
Depuis l'affaire Betaram, de plus en plus d'anciens élèves de l'enseignement catholique comme Alain demandent réparation. Par rapport à l'an dernier, les requêtes ont augmenté de 40%. Marie Dorin de Vaucresson préside l'une des deux instances qui accompagne les victimes de pédocriminalité dans l'église, l'INIR.
Ça a réactivé très clairement la libération de la parole. C'est toujours une bonne nouvelle parce qu'on sait que c'est bénéfique pour les personnes qui ressentent le besoin de reconnaissance et d'être accompagnées dans une démarche restaurative.
Ces chiffres tiennent seulement compte des victimes de prêtres et de directeurs d'établissements. Les demandes liées à des personnels non religieux comme les professeurs et les surveillants sont jugés non recevables.
Une réunion ce matin à l'Elysée, 10h, point d'étape sur la mise en œuvre de la loi narcotrafic. Il sera notamment question de la situation à Marseille après la mort du frère du militant Amine Kessassi la semaine dernière, farouche opposant aux trafiquants. Et autour de la table ce matin, Cyprien Pézeril, il y aura des membres du gouvernement, mais aussi des hauts placés en matière de narcotrafic.
Oui, ce ne sont pas seulement le Premier ministre et une partie du gouvernement qu'Emmanuel Macron réunit, mais aussi les directeurs généraux de la police, des douanes, ainsi que la future chef du parquet national anticriminalité organisée, le PNACO, des magistrats spécialisés pour suivre l'argent sale du narcotrafic et cibler les criminels au portefeuille. Ce nouveau parquet, il est créé par la loi narcotrafic et c'est justement sa mise en œuvre et sa montée en puissance qui sont à l'ordre du jour, avec un point spécifique sur Marseille. La préfète de police des Bouches-du-Rhône participe aussi à cette réunion au sommet. Alors que les drames se multiplient, le chef de l'État suit cela de très près, assure l'Élysée. La lutte contre le narcotrafic doit enfin réellement commencer, presse Jordan Bardella, le patron du RN. On gagne des batailles, mais on reste en guerre, assure de son côté RMC, le ministère de l'Intérieur.
Les ennuis se poursuivent au musée du Louvre, contraint de fermer l'une de ses galeries au public en raison d'une fragilité de l'édifice. Il s'agit de la galerie Campana, abritant 9 salles dédiées à la céramique grecque antique. Des investigations doivent être menées afin d'étudier la qualité des planchers. Nouveau drame avec, en toile de fond peut-être, le protoxyde d'azote à Roubaix. Une jeune femme de 17 ans a été retrouvée morte dimanche à son domicile. Sur place, forces de l'ordre et secours ont retrouvé Cassandre Brault des bonbonnes de gaz hilarant en très grande quantité.
Oui, les policiers ont retrouvé près d'une trentaine de bonbonnes de protoxyde d'azote dans l'appartement de cette jeune femme. Des analyses médico-légales sont en cours pour déterminer l'origine exacte de son décès, selon le parquet. Mais ce que l'on sait, c'est que la victime était connue pour consommer du protoxyde d'azote régulièrement, d'après les informations de BFM TV. Pour rappel, cette substance est de plus en plus détournée par les jeunes à des fins récréatives. C'est une voisine qui a donné l'alerte dimanche, inquiète de ne plus avoir de nouvelles de la jeune femme de 17 ans. En arrivant sur les lieux, les policiers et les secours ont découvert son corps sans vie. L'enquête a été confiée au commissariat de Roubaix.
Et juste après le journal de Thibault, un médecin addictologue sera en direct avec nous. Il a lancé la première consultation pour les jeunes accros à ce gaz de plus en plus répandu. Venez donc l'interpeller et témoigner au 32-16. Est-ce que vous consommez vous-même du protoxyde d'azote? Est-ce qu'on en consomme autour de vous? Vos questions et vos témoignages au 32-16.
Autre invité, 8h30 sur RMC, BFM TV, David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France. À l'occasion des maires qui se réunissent aujourd'hui en congrès, 107e édition à Paris, à 4 mois des élections municipales, 12 000 élus vont se retrouver pour des ateliers, des débats aussi. Et dans toutes les têtes, Hélène Terzian, le contexte budgétaire tendu.
Oui, avec un slogan, liberté, qui sonne comme un cri d'alarme. Le refrain des maires de France est toujours le même. Ils veulent moins de normes, plus d'autonomie, notamment budgétaire. André Léniel, vice-président de l'Association des maires de France, dénonce même une purge massive, vent debout contre l'effort de 4,7 milliards d'euros demandé aux collectivités pour l'an prochain. Avec cette pression budgétaire, le Premier ministre se sait attendu au tournant. Sébastien Lecornu viendra d'ailleurs clôturer ce congrès avec un discours scruté, notamment sur le chantier de la décentralisation qu'il appelle de ses voeux. Une dizaine de ministres défileront toute la semaine. Il faut qu'on encourage l'expérimentation, plaide l'un d'eux. On veut laisser du pouvoir aux maires, dit-il, qui ont raison de le demander.
Les antibiotiques encore trop souvent automatiques après des années de baisse, prescription et consommation sont repartis à la hausse l'an dernier à des niveaux d'avant Covid, nous dit une étude Santé publique France qui rappelle que la prise de ces médicaments n'est jamais anecdotique. Et si vous allez chez le docteur aujourd'hui, pensez à prendre votre smartphone. La carte vitale est désormais disponible de manière dématérialisée depuis une application dédiée. Le plan de paix de Donald Trump pour Gaza soutenu et voté cette nuit à l'ONU. Antoine Hollard, vous êtes le correspondant RMC à Washington. 13 des 15 membres du Conseil de sécurité, dont la France, se sont donc prononcés en faveur de cette résolution américaine, les États-Unis, qui ont fait pression pour obtenir l'aval de l'ONU.
Oui, c'est une victoire pour Donald Trump. Son plan pour Gaza a été largement adopté par le Conseil de sécurité. Concrètement, la résolution votée par l'ONU prévoit trois choses. D'abord, la mise en place d'une force internationale. Elle aura notamment pour mission de désarmer le Hamas. Pour le moment, les pays ne se bousculent pas pour envoyer des soldats, mais Washington espère que cette résolution, qui donne un cadre légal, va inciter désormais plus de monde à s'engager. Le deuxième point, c'est la mise en place de ce fameux comité pour la paix, cet organisme présidé par Trump lui-même. Il sera chargé de gérer l'enclave pendant 2 ans. L'un des objectifs, c'est de lancer la reconstruction avant finalement de remettre les clés aux Palestiniens. Et puis, et c'est un point important, le texte prévoit à terme la possibilité d'un État palestinien, à condition, précise la résolution, que l'autorité palestinienne, entre-temps, se soit réformée.
Antoine Hollard à Washington pour RMC. Aux États-Unis, toujours la sentence est tombée pour Victor Wembanyama. Blessé vendredi au mollet, il souffre d'une élongation. Le basketteur français des San Antonio Spurs sera absent plusieurs semaines. L'an dernier, c'est une blessure à l'épaule qui l'avait éloigné des parquets pendant 8 mois. Et puis le Brésil et la Colombie au programme des Bleus en mars prochain. 2 matchs amicaux pour l'équipe de France avant le mondial nord-américain en présence de l'Allemagne et des Pays-Bas. Ils ont validé leur billet hier soir pour la Coupe du Monde qui sera à vivre sur RMC, radio officielle de l'événement.
C'était le journal de Thibaut Texer, 7h08 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Attention, danger, le protoxyde d'azote tue. Une trentaine de bonbonnes de ce gaz ont été retrouvées dans l'appartement d'une jeune femme, 17 ans, morte dimanche à Roubaix, dans le Nord. Bonjour docteur Christophe Rioux. Vous êtes médecin addictologue à Lyon. Les jeunes sont de plus en plus accros à ce gaz utilisé à l'origine pour la cuisine. Un gaz soi-disant hilarant, mais qui peut avoir des conséquences irréversibles. C'est ce que vous nous dites dans un instant. Vos conseils très précis pour nous accompagner et accompagner ceux qui nous écoutent. Et puis vos appels, vous tous, est-ce que vous en consommez? Est-ce qu'on en consomme autour de vous? Avez-vous des demandes à formuler au docteur? Je vous attends au 3216.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12, vous nous écoutez à la radio sur RMC. Vous nous regardez à la télévision, Canal 23, RMC Story. Et on va parler de ce nouveau drame. Une adolescente de 17 ans retrouvée morte chez elle, dans son appartement. Une trentaine de bonbonnes de protoxyde d'azote. Bonjour docteur Christophe Rioux. Merci d'avoir accepté de nous accompagner ce matin pour mieux comprendre. Vous êtes médecin, addictologue aux Hospices Civils de Lyon. L'autopsie est en cours pour déterminer l'origine de la mort de cette jeune femme. Mais l'hypothèse du gaz soi-disant hilarant de cette consommation, elle est plausible pour vous? C'est-à-dire que ça peut entraîner la mort?
Toute pathologie addictive, une des conséquences parfois dramatiques de consommation addictive, c'est des consommations mortelles. Hein, l'héroïne, c'est bien connu, l'alcool aussi. Si on se rappelle de Amy Winehouse, elle est décédée d'une surconsommation massive. Et dans le proto, on est en train de découvrir ça. Le proto, c'est un psychoactif, donc c'est pour ça qu'on en prend. C'est aussi un neurotoxique, c'est pour ça que ça abîme les neurones, on pourra en parler. Mais c'est aussi ce qu'on appelle un thrombotique, c'est-à-dire que ça rend le sang trop épais. Et le sang trop épais, ça favorise des pathologies cardiovasculaires ou artérielles, un AVC, un infarctus, des phlébites. Et en plus, ce gaz est consommé, inhalé, sans oxygène. Donc si vous rajoutez le manque d'oxygène, vous avez une forme de combo gagnant, c'est-à-dire que le sang trop épais, le risque d'infarctus, vous faites un micro-infarctus, et en plus vous avez un manque d'oxygène, ben, vous avez le combo gagnant pour faire un arrêt cardio-respiratoire.
C'est terrible, effectivement, vous nous en faites un tableau très précis et je suis extrêmement heureuse que l'on puisse entendre vos mots, parce que jusqu'à présent, on parle du protoxyde d'azote, on parle des bonbonnes, on dit oui, mais bon, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on avait dans les fonds des tiroirs, des cuisines de nos grands-mères pour fabriquer de la chantilly. Donc, globalement, on se dit ça doit être à peu près inoffensif. Non, votre description, elle en est terrible. Je voudrais, avant que vous puissiez nous aider aussi à y voir plus clair sur la manière dont on peut éviter d'y être accro, comme vous dites, puisque vous accompagnez justement des jeunes qui doivent s'en sortir. Je voudrais qu'on puisse donner aussi la parole à Yann, parce que Yann nous a appelé au 3216 et Yann est policier dans l'Oise. Bonjour Yann. Vous vouliez témoigner de ce que vous voyez au quotidien. Désormais, le protoxyde d'azote, ça n'est pas quelque chose de marginal. Vous le constatez dans votre pratique de policier au quotidien.
Oui, effectivement. Juste précision, je ne suis pas policier dans l'Oise, je suis policier en Seine-Saint-Denis.
D'accord.
Mais oui, effectivement, le protoxyde d'azote est devenu quelque chose d'extrêmement banal chez les jeunes. Et
ouais.
C'est quelque chose auquel on est confronté tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, moi je suis en brigade de nuit, j'y suis confronté toutes les nuits. Et d'autant plus quand j'y suis confronté sur des gens qui conduisent sous protoxyde d'azote.
Ça donne quoi? Comment vous le constatez? Comment vous repérez?
Déjà, on le repère parce que ils ne se cachent même plus, sachant que ce n'est pas une infraction qu'on peut réprimander actuellement. Ils conduisent avec ils consomment le protoxyde d'azote dans des ballons.
Mmh.
Et ils mettent du gaz dedans et ils inhalent. Et ils conduisent avec le ballon en bouche, en fait. Donc, on n'a pas énormément à les repérer, étant donné qu'ils conduisent avec un énorme ballon de baudruche dans la bouche.
Ah oui. Donc, en fait, vous les repérez, vous voyez ça. Et ensuite, vous pouvez faire quoi, vous?
Concrètement, grand chose, hein. On les contrôle, étant donné qu'il n'y a pour l'instant pas d'infraction qui réprimande la consommation au volant, on leur demande de bien vouloir déjà vider le ballon lors du contrôle, mais ça s'arrête là. Après, on peut réprimander les infractions qu'ils auront commises au code de la route. Mmh. Il m'est déjà arrivé pour des grosses infractions de relever la mise en danger de la vie d'autrui pour une personne qui avait roulé en sens inverse pendant plus de 2 km. Mais à part ça...
Mais ça veut dire que c'est pas le protoxyde lui-même, c'est effectivement ces conséquences que vous pouvez à peu près contrôler. Yann,
voilà,
restez avec
c'est
nous.
L'attitude.
Restez avec nous que le docteur puisse lui-même nous expliquer. Docteur Christophe Rioux, d'abord, quels sont les effets? Pourquoi en consommer et pourquoi effectivement cette illusion d'être dans un esprit hilarant?
C'est comme toute consommation de psychoactifs, hein. On apprécie les vertus euphorisantes, calmantes, sédatives, qu'on appelle psychodysleptiques, c'est-à-dire qui fait rêver, qui fait planer, qui fait imaginer des choses. C'est pour rire, c'est pour être cool, c'est pour soigner son mal-être. Les usages sont différents, hein. C'est comme l'alcool. L'alcool, certains en prennent pour se désinhiber, et puis certaines personnes en prennent pour être moins mal. Hein.
Est-ce que ça crée une addiction? C'est-à-dire, est-ce que c'est addictif soi?
Alors, le proto, c'est un peu compliqué parce que on est en train de découvrir l'émergence de ce produit dans une population. C'est-à-dire que le protoxyde, lorsqu'il a été analysé, c'était d'abord utilisé en anesthésie, c'est ce qu'on appelle le méopa. Hein, c'est lorsqu'on met ça à un petit enfant pour le suturer, ça dure 3 minutes, ça c'est pas dangereux.
C'est le petit masque qu'on met sur le visage d'un enfant quand on doit lui faire des points de suture.
C'est pas pareil, c'est du protoxyde et de l'oxygène, et ça c'est pas dangereux. Ça a été testé en anesthésie, il y a un recul énorme. La différence, c'est que là on est sur des expositions absolument supermassives. C'est des consommateurs qui se mettent sous protoxyde toutes les nuits pendant plusieurs heures, ou le vendredi et le samedi soir, de 10h du soir jusqu'à 5h du matin. Et donc ce sont des expositions massives et répétées. Donc ça n'a rien à voir. Et donc l'augmentation du produit chez certaines personnes fait que ça développe effectivement des addictions. Et on le découvre pour plein de produits, hein. Un consommateur d'alcool, au début, il en prend un peu, et puis ensuite, il augmente.
Et ensuite, il devient addict, il devient accro. Est-ce qu'il faut interdire, docteur?
Eh ben, écoutez, c'est une question intéressante. Je n'ai probablement pas de réponse. Ce qu'on sait, c'est que toutes les manœuvres de répression très, très fortes font qu'il existe des circuits parallèles. Il suffit de voir dans l'histoire, quand vous vous penchez un peu sur la prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 1920, vous voyez que ça a développé tout un circuit parallèle.
Oui, c'est l'éternelle question de est-ce que interdire ne crée pas ce circuit parallèle. Mais sur le fond, vous diriez, il faut absolument empêcher au minimum, c'est-à-dire lutter d'une manière ou d'une autre pour que cette consommation ne s'installe pas chez les jeunes.
Eh bien, ce que je pense, c'est qu'il faut sans doute reclasser cette molécule de manière différente pour que effectivement il y ait pour les consommateurs une conséquence délétère de la consommation qui puisse créer un problème et se dire j'ai un problème avec ce produit.
Voilà, le réaliser.
On sait bien que quand il y a ça, ça pousse les gens à rentrer en soins. J'ai perdu mon permis, donc je viens vous voir. Je me suis fait arrêter, je viens vous voir. Et donc pour le proto, il n'y a pas ça.
Pour le proto, effectivement, s'il y avait cette interdiction, et Yann, votre témoignage de ce point de vue-là est particulièrement précieux, le fait qu'en soi, ce ne soit pas un motif, effectivement, de retrait de permis ou d'amende, ça, on l'a bien compris, docteur, ça aurait pu être utile. Merci à Yann pour son témoignage, policier en Seine-Saint-Denis, et merci à vous, docteur Christophe Rioux, médecin addictologue à Lyon, 7h20 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
L'historien d'Apolline Matin vient de rentrer dans ce studio, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
La France a perdu 40 000 fermes en 3 ans. Est-ce que c'est la vraie fin des paysans, Arthur ?
Pas encore, mais c'est un risque. Hein. Depuis un siècle et demi, leur nombre baisse constamment. Et pourtant, à une époque, les paysans, c'était le cœur de la France.
Vous nous le dites dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes tout pile sur RMC, il est 7h21.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12, vous nous écoutez à la radio sur RMC, vous nous regardez à la télévision, Canal 23, RMC Story. Et on va parler de ce nouveau drame, une adolescente de 17 ans retrouvée morte chez elle, dans son appartement, une trentaine de bonbonnes de protoxyde d'azote. Bonjour docteur Christophe Rioux, merci Bonjour. D'avoir accepté de nous accompagner ce matin pour mieux comprendre. Vous êtes médecin, addictologue aux Hospices Civils de Lyon. L'autopsie est en cours pour déterminer l'origine de la mort de cette jeune femme, mais l'hypothèse du gaz soi-disant hilarant de cette consommation, elle est plausible pour vous, c'est-à-dire que ça peut entraîner la mort?
Toute pathologie addictive, une des conséquences parfois dramatique de consommation addictive, c'est des consommations mortelles. Hein, l'héroïne, c'est bien connu, l'alcool aussi. Si on se rappelle de Amy Winehouse, elle est décédée d'une surconsommation massive. Et dans le proto, on est en train de découvrir ça. Le proto, c'est un psychoactif, donc c'est pour ça qu'on en prend. C'est aussi un neurotoxique, c'est pour ça que ça abîme les neurones, on pourra en parler. Mais c'est aussi ce qu'on appelle un thrombotique, c'est-à-dire que ça rend le sang trop épais. Et le sang trop épais, ça favorise des pathologies cardiovasculaires ou artérielles, un AVC, un infarctus, des phlébites. Et en plus, ce gaz est consommé, enfin inhalé, sans oxygène. Donc si vous rajoutez le manque d'oxygène, vous avez une forme de combo gagnant, c'est-à-dire que le sang trop épais, le risque d'infarctus, vous faites un micro-infarctus, et en plus vous avez un manque d'oxygène, vous avez le combo gagnant pour faire un arrêt cardio-respiratoire.
C'est terrible, effectivement, vous nous en faites un tableau très précis et je suis extrêmement heureuse que l'on puisse entendre vos mots, parce que jusqu'à présent, on parle du protoxyde d'azote, on parle des bonbonnes, on dit oui mais bon, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on avait dans les fonds des tiroirs, des cuisines de nos grands-mères pour fabriquer de la chantilly, donc globalement, on se dit ça doit être à peu près inoffensif. Non, votre description, elle en est terrible. Je voudrais, avant que vous puissiez nous aider aussi à y voir plus clair sur la manière dont on peut éviter d'y être accro, comme vous dites, puisque vous accompagnez justement des jeunes qui doivent s'en sortir. Je voudrais qu'on puisse donner aussi la parole à Yann, parce que Yann nous a appelé au 3216 et Yann est policier dans l'Oise. Bonjour Yann. Vous vouliez témoigner de ce que vous voyez au quotidien. Désormais, le protoxyde d'azote, ça n'est pas quelque chose de marginal. Vous le constatez dans votre pratique de policier au quotidien?
Oui, effectivement. Juste précision, je suis pas policier dans l'Oise, je suis policier en Seine-Saint-Denis.
D'accord.
Mais oui, effectivement, le protoxyde d'azote est devenu quelque chose d'extrêmement banal chez les jeunes. Et
ouais.
C'est quelque chose auquel on est confronté tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, moi je suis en brigade de nuit, j'y suis confronté toutes les nuits. Et d'autant plus quand j'y suis confronté sur des gens qui conduisent sous protoxyde d'azote.
Ça donne quoi? Comment vous le constatez? Comment vous repérez?
Déjà, on le repère parce que il ne se cache même plus. Sachant que ce n'est pas une infraction qu'on peut réprimander actuellement, ils conduisent avec les... En fait, ils consomment le protoxyde d'azote dans des ballons. Mmh. Et ils mettent du gaz dedans et ils l'inhalent. Et ils conduisent avec le ballon en bouche, en fait. Donc, on n'a pas énormément à les repérer, étant donné qu'ils conduisent avec un énorme ballon de baudruche dans la bouche.
Ah oui, donc en fait, vous les repérez, vous voyez ça. Et ensuite, vous pouvez faire quoi, vous?
Concrètement, pas grand-chose. Hein. On les contrôle. Étant donné qu'il n'y a pour l'instant pas d'infraction réprimande la consommation au volant, on leur demande de bien vouloir déjà vider le ballon lors du contrôle, mais ça s'arrête là. Après, on peut réprimander les infractions qu'ils auront commises au code de la route. Mmh. Il m'est déjà arrivé pour des grosses infractions de relever la mise en danger de la vie d'autrui pour une personne qui avait roulé en sens inverse pendant plus de 2 km. Mais à part ça...
Mais ça veut dire que c'est pas le protoxyde lui-même, c'est effectivement ses conséquences que vous pouvez à peu près contrôler.
Yann, voilà, restez avec nous.
Restez avec nous que le docteur puisse lui-même nous expliquer. Docteur Christophe Rioux, d'abord, quels sont les effets? Pourquoi en consommer et pourquoi effectivement cette illusion d'être dans un esprit hilarant?
C'est comme toute consommation de psychoactifs. Hein. On apprécie les vertus euphorisantes, calmantes, sédatives, qu'on appelle psychodysleptiques, c'est-à-dire qui fait rêver, qui fait planer, qui fait imaginer des choses. C'est pour rire, c'est pour être cool, c'est pour soigner son mal-être. Les usages sont différents, hein. C'est comme l'alcool. L'alcool, certains en prennent pour se désinhiber, et puis certaines personnes en prennent pour être moins mal. Hein.
Est-ce que ça crée une addiction? C'est-à-dire, est-ce que c'est addictif soi?
Alors, le proto, c'est un peu compliqué parce que on est en train de découvrir l'émergence de ce produit dans une population. C'est-à-dire que le protoxyde, lorsqu'il a été analysé, c'était d'abord utilisé en anesthésie, c'est ce qu'on appelle le méopa. Hein, c'est lorsqu'on met ça à un petit enfant pour le suturer, ça dure 3 minutes, ça c'est pas dangereux.
C'est le petit masque qu'on met sur le visage d'un enfant quand on doit lui faire des points de suture.
C'est pas pareil, c'est du protoxyde et de l'oxygène, et ça c'est pas dangereux. Ça a été testé en anesthésie, il y a un recul énorme. La différence, c'est que là on est sur des expositions absolument supermassives. C'est des consommateurs qui se mettent sous protoxyde toutes les nuits pendant plusieurs heures, ou le vendredi et le samedi soir, de 10h du soir jusqu'à 5h du matin. Et donc ce sont des expositions massives et répétées. Donc ça n'a rien à voir. Et donc l'augmentation du produit chez certaines personnes fait que ça développe effectivement des addictions. Et on le découvre pour plein de produits, hein. Un consommateur d'alcool, au début, il en prend un peu, et puis ensuite, il augmente.
Et ensuite, il devient addict, il devient accro. Est-ce qu'il faut interdire, docteur?
Eh ben, écoutez, c'est une question intéressante. Je n'ai probablement pas de réponse. Ce qu'on sait, c'est que toutes les manœuvres de répression très, très fortes font qu'il existe des circuits parallèles. Il suffit de voir dans l'histoire, quand vous vous penchez un peu sur... la prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 1920, vous voyez que ça a développé tout un circuit parallèle.
Oui, c'est l'éternelle question de est-ce que interdire ne crée pas ce circuit parallèle? Mais sur le fond, vous diriez, il faut absolument empêcher au minimum, c'est-à-dire lutter d'une manière ou d'une autre pour que cette consommation ne s'installe pas chez les jeunes.
Eh bien, ce que je pense, c'est que il faut sans doute reclasser cette molécule de manière différente pour que effectivement il y ait pour les consommateurs une conséquence délétère de la consommation qui puisse créer un problème et se dire j'ai un problème avec ce produit.
Voilà, et le réaliser.
On sait bien que quand il y a ça, ça pousse les gens à rentrer en soins. J'ai perdu mon permis, donc je viens vous voir. Je me suis fait arrêter, je viens vous voir. Et donc pour le proto, il n'y a pas ça.
Pour le proto, effectivement, s'il y avait cette interdiction, et Yann, votre témoignage de ce point de vue-là est particulièrement précieux, le fait que en soi, ce ne soit pas un motif, effectivement, de retrait de permis ou d'amende, ça, on l'a bien compris, docteur, ça aurait pu être utile. Merci à Yann pour son témoignage, policier en Seine-Saint-Denis, et merci à vous, docteur Christophe Rioux, médecin addictologue à Lyon, 7h20 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
L'historien d'Apolline Matin vient de rentrer dans ce studio, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
La France a perdu 40 000 fermes en 3 ans. Est-ce que c'est la vraie fin des paysans, Arthur ?
Pas encore, mais c'est un risque. Hein. Depuis un siècle et demi, leur nombre baisse constamment. Et pourtant, à une époque, les paysans, c'était le cœur de la France.
Vous nous le dites dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes tout pile sur RMC, il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 sur RMC et on va remonter le temps comme chaque matin avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Hier, l'association Terre de Liens, qui veut préserver les terres agricoles, a révélé ce chiffre très inquiétant. En 3 ans, il y a 40 000 fermes de petite taille qui ont disparu. Pour vous, il faut réagir.
Oui, puisque ce chiffre confirme une tendance, la disparition des petites exploitations depuis 1988. 90% des départements ont perdu plus de la moitié de leurs fermes. Évidemment, ça met des agriculteurs au chômage, mais c'est aussi un bouleversement économique puisque ça favorise la concentration des grosses exploitations.
Les fermiers ont joué un rôle très important dans notre économie.
Oui, et c'était même une classe sociale en soi. Hein. Entre les ouvriers et la haute société, il y avait les fermiers. Et à partir du XVIIe siècle, ils ont considérablement agrandi leurs terres. Les exploitations pouvaient aller jusqu'à 100 hectares, c'est énorme. Riches, puissants, c'est eux qui nourrissaient la France. Et ils avaient d'ailleurs un nom, on les appelait les grands fermiers, hein, ça fait puissant. Donc vous voyez, la concentration des terres, ça ne date pas d'hier. Pauline.
Être fermier, à un moment, c'est devenu une mode.
Oui, au XVIIIe siècle, la France se passionne pour l'univers de la ferme. Même la reine s'y met. Dans les années 1780, Marie-Antoinette se fait construire des petites fermes dans les jardins du château de Versailles. Il y avait des animaux, des étangs, des chaumières. Et elle venait là, avec ses copains, pour jouer à la ferme, hein, pour traire les vaches, nourrir les cochons, tout ça déguisé en paysanne, c'était follement amusant. Cet endroit, ça s'appelle le hameau de la Reine. Et aujourd'hui, si vous visitez le château de Versailles en famille, eh bien vous pouvez encore le visiter.
Et il y a même des animaux.
Absolument.
Les fermiers ne faisaient pas de politique.
Alors pas vraiment, mais ils vont s'y mettre un petit peu sous la Révolution française. Hein, quand la première Assemblée nationale se réunit en 1789, ils seront 40 sur 1145 députés à siéger. Mais ils vont se retirer très vite pour une raison très simple. Ils devaient retourner à leur champ. La terre n'attend pas. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les fermiers font en général peu de politique. Ils n'ont pas le temps.
Comment ça va évoluer ?
Alors les fermes continueront évidemment à avoir beaucoup de poids dans notre économie. En 1860, un actif sur deux travaille dans l'agriculture. Et à partir de là, ça va décliner constamment. Avant la Seconde Guerre mondiale, ça ne représentera plus qu'un actif sur quatre. Entre 2010 et 2020, la France a perdu près de 100 000 agriculteurs. Et aujourd'hui, les agriculteurs donc représentent 1,5% de la population active.
Comment on peut enrayer ce phénomène ?
Eh bien, en suivant les conseils de cette association, hein, Terre de Liens, c'est-à-dire faciliter l'installation de paysans dans les campagnes pour faire revivre ces fameuses petites fermes qui font partie de notre patrimoine, mais pas seulement. Ça nous permet aussi de manger correctement, ce qui n'est pas rien. Mais rien ne pourra se faire sans les municipalités qui doivent préserver les terrains pour ça. Bref, il faut aller contre le sens de l'histoire. C'est toute la difficulté.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Et justement, puisque vous parlez des municipalités, c'est un maire que je reçois et Arnaud Demange vient en tirer le portrait.
RMC
Demange pirate le face-à-face.
Bonjour, bonjour Arnaud, vous venez pirater le face-à-face oui. Tout à l'heure sur RMC et BFM TV. Je reçois le maire de Cannes, président de l'association des maires de France, David Lisnard.
Il fait chaud.
Hier, on recevait Patrick Sébastien et ce matin, on reste dans le thème de la fête avec David Lisnard qui préside aujourd'hui le Congrès des maires de France. Et au Congrès des maires de France, on fait la fête! Parce que le Congrès des maires de France, c'est la réunion de tous les maires et c'est l'équivalent de Noël à Pigalle. Des milliers de maires qui montent en célibataire à Paris pendant 3 jours et qui reviennent. Ben ouais, c'est chaud là-bas, hein, du coup. Et ils reviennent la semaine suivante à la mairie.
Monsieur le maire, vous avez fait une note de frais de 500 € avec une facture du Ladies Paradise.
Oui, absolument. Oui, c'est une boîte de conseils sur la place des femmes dans les agglomérations.
Oui, et Lola, c'est qui ?
Mademoiselle Lola est une experte qui sait mettre à nu les problématiques des maires. Faites le virement, posez pas de questions comme ça tout le temps aussi, Martine. Bref, les maires se retrouvent et alors ils parlent de leurs problèmes, de leurs succès, de leurs échecs. Le maire de Roubaix, il rase les murs par exemple, vous voyez.
Voilà.
Et si David Lisnard le chope, il fait « Hé, hop, viens là toi, on t'a vu ce que t'as fait ?»
Regarde, on a des photos de ta ville. On a des photos de Roubaix. Hein. Tu donnes une très mauvaise image de la profession, Jean-Charles. T'es exclu, t'es puni.
Mais David, t'es maire de Cannes aussi, c'est de la triche. T'as que des vieux blindés. Je vais avec les cartes que j'ai, merde.
Alors, il y a même les maires des petites villes qui viennent. Il y a le maire de Tougrasse, les deux Glaviots, qui rencontre celui de Sapine sous les sapins. Il y a le maire de Pignol, la fermière, évidemment, qui discute avec celui de Razon, la reine, qui bavarde avec celui de Morlaix, les petits tétons. Voilà. Et tous un jour, ils rêvent de diriger des grandes villes. Ils voient Anne Hidalgo, ils font « Oh, c'est la mère de Paris !» Parce que c'est Beyoncé pour eux. Et après, ils vont visiter Paris, puis ça devient Affida Turner pour eux, parce qu'ils voient les résultats. David Lisnard a déclaré « L'État est drogué à la dépense publique. » Autre gros sujet dans l'interview. Et ça, on a vu avec Bruno Le Maire, 3000 milliards de dettes. Il était drogué à la dépense publique. D'ailleurs, quand il était, comme il est plus ministre de l'économie aujourd'hui, il doit être en manque. Il doit zoner à la colline du crack, Bruno Le Maire, en cherchant de la dépense publique.
« Et lui, je peux sniffer ta carte vitale. Je peux regarder tes remboursements de sécurité sociale sur ton compte Amélie. Vas-y, fais pas ta pute. Allez, vas-y, fais voir tes APL. Allez, si tu veux, je te suce. Non, non !»
Dites non à la drogue, les enfants. Allez, on va faire la fête avec David Lisnard à 8h30. À tout à l'heure.
Ce sera à 8h30, mais d'ici là,
vous l'avez entendu, 120 000 euros.
C'est énorme, c'est l'alerte. Il est 7h27. C'est l'alerte et avec ça, vous avez de quoi faire la fête. 120 000 euros. RMC vous offre 120 000 euros et c'est l'heure. C'est l'heure de les gagner à 7h27. Il y a 100 000 euros pour vous, net d'impôts, et il y a 20 000 euros pour la personne de votre choix si, quand on l'appelle, elle dit qu'elle écoute RMC. Alors, parlez d'RMC autour de vous et puis surtout, inscrivez-vous. Vous avez donc 10 minutes pour envoyer RMC au 732-16. RMC par SMS au 7-32-16. Il est 7h28. On vous offre 120 000 euros jusqu'à 7h38. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 4 SMS maxi.
A tout de suite pour la météo de journal. Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Plus précisément 7h31 et n'oubliez pas, il vous reste donc 6 minutes pour envoyer RMC au 732-16 et gagner les 120 000 euros. Tout de suite, le journal, Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Décidément, le Louvre n'est pas épargné après le casse du siècle le mois dernier. Voilà que les planchers du musée menacent de s'effondrer. Une galerie a été fermée par précaution. La carte vitale, désormais disponible sur tous nos smartphones. Mode d'emploi dans ce journal. Et puis la note très salée de la dépollution de l'eau. L'UFC Que Choisir alerte. 15% du réseau est concerné et ça se ressent sur la facture des Français.
La série noire continue au Louvre.
Quasiment un mois après le spectaculaire cambriolage du musée, le bâtiment est en proie à un nouveau problème de sécurité, cette fois lié à sa vétusté, à tel point que la direction a pris la décision de fermer jusqu'à nouvel ordre l'un de ses espaces les plus prestigieux, qui se trouve Lou Garnier, juste à côté de la galerie d'Apollon, victime du casse du siècle.
Il s'agit de la galerie Campana. Elle abrite 9 salles et rassemble des céramiques grecques antiques. Les bureaux de 65 employés situés au 2e étage seront évacués. La vétusté des bâtiments n'a rien de surprenant pour Élise Muller. Elle est représentante du syndicat Sud Culture et agent de salle au Louvre.
Il y a des éléments qui sont visibles et d'autres qui le sont beaucoup moins. Les toitures qui fuient, des fissures, les canalisations qui rompent, c'est visible dans notre quotidien de travail.
Surtout, elle craint que d'autres galeries ferment à leur tour.
Vraiment, on est extrêmement inquiet. Comment est-ce qu'on peut en arrivé là, le plus grand musée du monde, 300 millions de budget, et on se retrouve à devoir fermer parce qu'il y aurait un risque d'effondrement de plancher. On marche sur la tête et on se demande vraiment, mais quelles ont été les priorisations de la direction ces dernières années?
Pour éviter ce qu'elle qualifie de fuite en avant, elle espère une rénovation en urgence des bâtiments.
Une réunion au sommet sur le narcotrafic organisée ce matin à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron après les drames qui ont frappé Marseille et Grenoble la semaine dernière. Il sera notamment question de la mise en œuvre de la loi promulguée en juin dernier. Il est 7h33 et c'est une avancée majeure. La carte vitale dématérialisée est désormais accessible à tous les Français après une phase d'expérimentation dans la moitié des départements. Et pour ça, Célestin Bougère, il va falloir une application spécifique.
Oui, dès maintenant, vous pouvez télécharger sur votre téléphone l'application Carte Vitale. Il suffit d'y inscrire votre numéro de sécurité sociale ou de scanner directement votre petite carte verte. L'application utilise ensuite la reconnaissance faciale pour vous identifier, et ce, à chaque utilisation. Une fois passées ces étapes, votre carte vitale apparaît sur votre téléphone. Plus besoin de fouiller dans votre portefeuille. Pour que cela fonctionne, il faut tout de même que votre médecin ou votre pharmacien soit équipé pour lire la carte vitale depuis l'application. La plupart des professionnels de santé le sont, d'après la Caisse d'assurance maladie, qui justifie cette nouveauté par la flexibilité qu'elle apporte à tous. Dans une étude Ipsos BVA, 25% des Français disent avoir déjà eu des difficultés à retrouver leur carte vitale alors qu'ils en avaient besoin en urgence.
Une carte vitale que les Français utilisent de plus en plus pour les antibiotiques, dont les prescriptions remontent en flèche à leur niveau d'avant Covid. On en parle dans le journal de 8h. Ils se félicitent ce matin. Donald Trump a obtenu gain de cause auprès des Nations Unies, qui ont voté hier soir son plan de paix pour Gaza, avec notamment la création d'une force internationale.
7h34 sur RMC, et ce sera une question centrale au Salon des maires de France qui s'ouvre ce matin à Paris, le coût de la dépollution de l'eau.
Un coût qui va exploser dans les prochaines années selon l'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs appelle à faire payer les secteurs industriels et agricoles au lieu des collectivités et donc des Français, car la pollution s'étend de plus en plus. Désormais, 15% des réseaux d'eau ne sont plus conformes, notamment dans le Nord, Martin Juré.
Max Vitaras, dans le Pas-de-Calais, membre de l'antenne locale de l'UFC Que Choisir, il examine les derniers relevés concernant l'eau de sa commune, peu rassurant.
Joli, hein ? L'eau distribuée présente des concentrations perchlorate élevées. Sa consommation est déconseillée aux nourrissons de moins de 6 mois. Des dépassements des valeurs réglementaires en pesticides sont mesurés.
Plus des deux tiers des réseaux d'eau potable de ce département, mais aussi de l'Oise, de l'Aisne et du Nord, sont concernés par des dépassements en pesticides. Cela ne veut pas dire que l'eau est impropre à la consommation, mais que les collectivités doivent payer très cher des installations pour la dépolluer. Des investissements qui vont devoir être supportés par les particuliers. Nicolas Garnier, délégué général de l'association Amorce, accompagne les élus locaux sur cette gestion de l'eau.
À l'échelle du pays, on peut considérer que protéger les captages d'eau potable va représenter à peu près 1,3-1,5 milliard d'euros par an. Si vous augmentez les dépenses du service public de l'eau, votre seule option, c'est d'augmenter le prix de l'eau.
En moyenne, la facture d'eau des ménages a déjà augmenté de 16% depuis deux ans.
Et ne manquez pas, à 7h50, la Voix de Gauche ce matin, Cécile Duflot, qui reviendra précisément sur cette question de la gestion de l'eau.
Autre sujet à l'ordre du jour au Salon des maires, le sport, avec la présence aujourd'hui de l'ancienne ministre et désormais présidente du Comité national olympique et sportif français, Amélie Oudéa-Castéra, qui va présenter, et RMC vous le dévoile en exclusivité ce matin, son plan dans un contexte budgétaire tendu. Arnaud Valadon.
Parmi les 10 mesures proposées, Amélie Oudéa-Castéra veut garantir l'accès à la pratique sportive en club aux enfants scolarisés. Elle souhaite profiter du temps périscolaire, ce temps d'accueil généralement après l'école à 16h, pour permettre aux élèves de primaire de faire une activité physique. En rapprochant école et associations sportives, la présidente du Comité national olympique et sportif français veut que chaque enfant puisse pouvoir faire du sport sans contrainte financière et sans problème pour accéder à un gymnase en prévoyant le transport depuis l'école. Dans ce pacte sportif territorial, Amélie Oudéa-Castéra appelle les maires à favoriser des actions sportives incluant les seniors et les personnes en situation de handicap. L'ancienne ministre des Sports et des Jeux de Paris 2024 entend sensibiliser les élus à quelques mois des élections municipales, alors que 4 communes françaises sur 10 ont baissé leur budget alloué au sport en 2025.
Et puis place au quart de finale de la Coupe Davis. L'équipe de France affronte la Belgique à partir de 16h.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Chantilly.
Et voici notre prono du jour. Le favori, c'est le numéro 3, Darling Hurst. L'outsider, c'est le 7, Acqueville.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37 sur RMC. On part à Créteil au 32-16. Créteil nous appelle Mohamed. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Comment ça va? Bonjour. Vous êtes agent d'exploitation dans quel domaine?
Dans une usine d'incinération.
Dans une usine d'incinération. Et alors précisément, vous êtes confronté au quotidien aux traces du protoxyde d'azote.
C'est ça. En fait, toutes les bouteilles dont les jeunes profitent, entre guillemets, pour leur soirée, etc., finissent souvent dans les poubelles, par les éboueurs, etc., etc., où ils n'ont pas en fait d'endroit pour les stocker. Donc eux, ils les jettent dans la poubelle en faisant leur métier, quoi. Sauf que chez nous, quand elles arrivent et qu'on les brûle en même temps que les déchets, parce qu'à travers des tonnes de déchets, c'est impossible de les séparer des déchets. Quoi. C'est ça. Elles rentrent dans nos fours et quand elles explosent, bah ça fait des dégâts considérables. On a des dépassements de polluants, on a des casses sur nos chaudières, donc ça met les fours à l'arrêt, on peut plus incinérer. On a eu un blessé il n'y a pas longtemps, au mois de juin, qui a été en arrêt de travail pendant 3 mois suite à une explosion.
Ça, c'est dingue. Donc, c'est-à-dire que, Mohamed, honnêtement, on commençait depuis quelques semaines à parler des terribles conséquences du protoxyde d'azote. On en a parlé évidemment aussi avec la mort de Matisse. Hein, je ne l'ai pas reprécisé tout à l'heure. Mais Matisse qui a été tué par un chauffard qui fuyait un contrôle de police et qui, semble-t-il, était lui-même sous protoxyde d'azote. On en parle évidemment avec la mort de cette jeune femme à Roubaix. Mais on ne parle pas de cette conséquence-là. En effet, vous avez raison, de ces petites... Donc, c'est les petites bonbonnes en métal qui des se retrouvent donc à exploser dans vos incinérateurs.
Voilà, on a commencé par des petites bonbonnes, mais ce qu'on voit arriver aujourd'hui, c'est limite des ogives, quoi. C'est énorme en bouteille. Et c'est tous les jours. Nous, on a un bac de collecte qu'on a mis dans notre hall. À l'occasion, si quelqu'un veut venir vérifier, vous verrez l'importance du truc. Donc, quand elles rentrent pas, pour nous, c'est une victoire. Quand elles rentrent pas dans le four, pour nous, c'est une victoire.
Quand vous arrivez avant qu'elles brûlent, quoi.
Quand les éboueurs ont réussi à les mettre de côté et qu'ils nous les ramènent, parce que nous, on essaye de lancer des messages pour essayer de les trier avant qu'elles arrivent.
Mais ça veut dire que maintenant, ça a la taille quasiment d'une bouteille, quoi.
Ah, mais beaucoup plus gros qu'une bouteille. Ça fait autant de dégâts qu'une bouteille de gaz qui arrive une fois tous les je sais pas combien de temps. Là, c'est tous les jours. Ça a changé notre manière de travailler. On a dû s'équiper différemment. On est obligé de mettre des masques avec des visières, des combinaisons comme si on allait, comme si on était des démineurs, quoi.
Incroyable témoignage. Franchement, Mohamed, merci beaucoup. C'est un des aspects encore du protoxyde d'azote que nous n'avions pas forcément en tête. Merci, Mohamed, d'avoir témoigné ce matin. Je crois que c'est la première fois que je vous accueille et très heureuse d'avoir pu accueillir votre témoignage. Mohamed qui nous appelait donc de Créteil, il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Quel tarif pour l'électricité l'an prochain? Bonjour Emmanuel Wargon.
Bonjour.
Vous présidez la commission de régulation de l'énergie. C'est vous qui proposez au gouvernement les prix de l'électricité pour les tarifs réglementés. Mais alors attention, ça devrait augmenter jusqu'à 5% pour les PME. En revanche, vous allez peut-être nous le confirmer dans un instant, ça devrait rester à peu près OK pour les particuliers. Et vous qui nous appelez, qui nous écoutez, est-ce que vous avez du mal à payer vos factures d'électricité? Est-ce que vous avez trouvé des solutions? Vous êtes peut-être patron de PME, est-ce que vous redoutez ces augmentations? Vous nous appelez au 3216 pour interpeller Emmanuel Wargon. À tout de suite, 7h41.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44, vous écoutez RMC, vous regardez RMC Story. Quel tarif pour l'électricité l'an prochain? Bonjour Emmanuel Wargon, vous présidez la commission de régulation de l'énergie. C'est vous qui proposez au gouvernement les prix de l'électricité pour les tarifs réglementés, en fonction aussi de tout ce qui se joue dans l'année. Il y a deux vagues d'ajustement des prix pour les tarifs d'électricité réglementés pour les particuliers. Il y a février et il y a août. En août dernier, il n'y a pas eu de changement et en février, il y a même eu une baisse. Qu'est-ce qu'il va se jouer là, juste après Noël?
En fait, là, ce qu'on voit, c'est une grosse détente sur les prix de l'électricité sur les marchés de gros. Vous vous souvenez, on a eu une énorme crise en 2022-2023, des prix extrêmement élevés, beaucoup de protection de la part du gouvernement, 26 milliards d'euros, c'est énorme, qui ont permis de réduire les factures. Et en fait, l'État a pris en charge presque 40% des factures d'électricité, 30% des factures de gaz. Là, heureusement, on est sorti de tout ça, les prix baissent. Alors, c'est un peu tôt, Apolline, pour vous dire ce que ça donne en février, puisque en fait, on fait des calculs quand on aura fini l'année, on fait les calculs en janvier, il nous faut encore novembre et décembre.
Est-ce qu'on sait déjà la tendance? C'est-à-dire, est-ce que ça va baisser? Est-ce que ça va rester stable? Ou est-ce que ça pourrait augmenter?
Alors, la tendance est plutôt rassurante. Donc, pour les particuliers, pour les ménages, hein, vous et moi, la tendance, c'est globalement stabilité, peut-être une augmentation légère du type inflation, mais pas plus que ça. Pour les entreprises, c'est plus compliqué à dire parce qu'en fait, les entreprises ont toutes des contrats qui sont plus différents. Et donc, certaines ont déjà bénéficié de la baisse des prix, d'autres pas encore. Mais là aussi, on voit globalement, à grosse maille, plutôt une stabilité. Donc, tout ça est assez encourageant.
Alors, un chiffre qui est avancé, qui est la question quand même pour les PME notamment, qui en effet ont des contrats qui sont négociés régulièrement, il pourrait y avoir une augmentation de 5%. Est-ce que ce chiffre vous paraît effectivement crédible?
Alors, moi, je connais pas ce chiffre. Je sais pas quelle est la source de ce chiffre. Je vous dis, c'est plus difficile pour les entreprises, même pour les PME, parce que ça dépend à quel moment elles ont souscrit leur contrat, est-ce que c'est du prix fixe, est-ce que c'est du prix variable. Mais globalement, on est dans la stabilité au sens large. Alors peut-être 1 ou 2% près, bien sûr.
C'est le journal Les Échos qui avance ce chiffre de 5% qu'ils ont calculé. Il y a aussi certaines inquiétudes sur la réforme de la vente d'électricité d'EDF. Est-ce que là aussi le dispositif pourrait changer ?
Alors en fait, on est vraiment dans une période de transition, puisqu'on avait un système dans lequel EDF était, avait comme obligation de vendre son électricité nucléaire à un prix assez bas. Cette obligation s'arrête au 1er janvier 2026, mais comme globalement nos prix sont bas, l'un dans l'autre, finalement, ça s'équilibre. Il faut voir qu'on est très compétitif en ce moment. On parlait de compétitivité avec Choose France hier. La France a une électricité qui est à 55 euros du mégawattheure sur le marché de gros, quand l'Allemagne est à 85, peu importe la valeur absolue, hein, l'important c'est la variation. On est 30 euros moins cher que l'Allemagne, donc on a vraiment actuellement un marché compétitif. C'est grâce au nucléaire qui est très présent, c'est aussi grâce aux énergies renouvelables. Et sur ce marché, juste pour finir, maintenant, c'est plus facile de comparer, de trouver son contrat. On a fait notre boulot de gendarme de l'énergie. On avait demandé aux fournisseurs d'être plus clairs. Ils nous ont rendu des comptes. Tout ça, c'est très encourageant.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un comparateur qui fonctionne. Et avant de décider de prendre un contrat chez tel ou tel opérateur, on a la possibilité de savoir combien ça va nous coûter.
Exactement. Vous vous souvenez, en période de crise, personne n'y comprenait rien. Les fournisseurs se comportaient pas forcément très bien. Nous, on a fait un énorme boulot, notre métier de gendarme, pour leur dire maintenant, vous allez présenter les offres de façon claire. Vous allez faire une estimation annuelle de la facture. Vous allez expliquer aux gens comment les prix évoluent. Et ils sont tous rentrés dans nos lignes directrices. Tous ceux qui ont topé, on en a 3 sur 20 qui sont en conformité insuffisante. Donc, c'est quand même très encourageant. On a encore une petite dizaine de fournisseurs qui n'ont pas rejoint la démarche. Et on les incite vraiment à le faire. Et il faut qu'ils acceptent de présenter leurs offres de façon claire et lisible.
S'ils ne le font pas, il faut peut-être se dire que c'est louche.
En tout cas, un fournisseur qui accepte de jouer le jeu et qui accepte d'être transparent et qui accepte que nous-mêmes nous vérifions, ça vaut quand même quelque chose.
Emmanuel Vargon, vous qui présidez la commission de régulation de l'énergie, vous le savez aussi, le médiateur de l'énergie dit qu'il y a toujours 36% des Français qui ont du mal à payer leurs factures de gaz ou d'électricité. Comment les aider ?
C'est sûr que la précarité énergétique, c'est un sujet important. Aujourd'hui, en plus, c'est la journée internationale de lutte contre la précarité. Donc, on a des gens qui ont du mal. Alors, c'est d'abord un problème de pouvoir d'achat en général. Ensuite, c'est un problème plus global, l'isolation des logements, les travaux à faire. Moi, j'ai porté ma prime Rénov quand j'étais ministre. Maintenant, le fait de pouvoir aussi mieux choisir son contrat, d'avoir les prix les plus justes possibles et d'être capable de bouger sa consommation, donc de consommer quand l'électricité est un petit peu moins chère, ça détend aussi.
Donc n'hésitez pas à regarder sur le comparateur d'énergie, vous qui nous écoutez. Une dernière question, la multiplication de ceux qui produisent leur propre électricité, l'électricité fabriquée par soi-même et en autoconsommation, elle a été multipliée par 3 en 2 ans. C'est quoi ? C'est les panneaux solaires ?
Absolument, c'est les panneaux solaires chez soi. 650 000 foyers, ménages en France produisent leur électricité. Ça a été multiplié par 3 en 2 ans. C'est très très significatif. C'est aussi un comportement d'acteur au service, non seulement de la transition écologique, mais de sa propre facture. C'est très encourageant.
La question bonus, cette évolution des heures creuses, heures pleines, avec des heures creuses au milieu de la journée, ça fonctionne franchement ?
Ça commence.
Moi, j'ai regardé sur monedf.fr, je n'ai absolument rien trouvé. Je ne sais pas quand est-ce que je passe aux heures creuses dans la journée.
Alors, il y a 11 millions de foyers qui vont changer, Apolline, donc je ne peux pas vous dire quand vous changez, vous. Mais en fait, vous serez informé par votre fournisseur 6 mois avant. Pour savoir quelles sont vos heures creuses, vous avez ça sur votre facture ou sur votre compteur, si vous appuyez sur Linky, et ça vous donnera l'information. Et après, si vous devez changer, vous serez informé 6 mois avant par votre fournisseur.
Merci Emmanuel Vargon, donc présidente de la CRE, la commission de régulation de l'énergie. Vous le dites, il y a une grosse détente, c'est votre expression, sur les prix de l'électricité. 7h50 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus Mathieu, des artistes britanniques qui interpellent leur gouvernement.
Dua Lipa notamment, que vous entendez en cause, la flambée des prix des billets de concert. On en parle souvent, il y a aussi Mark Knopfler, New Order, PJ Harvey ou encore Radiohead. La crème de la pop et du rock anglais qui demande une nouvelle réglementation sur la vente de billets de concert. Ils adressent une lettre ouverte au gouvernement. Ce qu'ils dénoncent, vous connaissez le phénomène, les places vendues en billetterie qui se retrouvent 5 fois plus chères au moins sur les sites de revente. En cause, les bots, des machines, des logiciels qui achètent des places par dizaines, par centaines et qui les revendent sur un marché où clairement c'est devenu le règne de la spéculation. C'est ainsi qu'on a vu des places pour Oasis partir à près de 4 500 livres, plus de 5 000 euros. The Cure que vous entendez, mais encore Coldplay aussi, ces artistes estiment qu'il faudrait plafonner une marge maximum à 30% au-dessus du prix d'origine.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h53 à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Story, c'est l'heure de la voix de gauche ce matin. Avec vous Cécile Duflo, bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Cécile, l'UFC Que Choisir publie ce matin une étude sur la qualité de l'eau du robinet en France. Et RMC révèle ce matin ce chiffre inquiétant. Seuls 85% des réseaux d'eau sont véritablement conformes. C'est 10 points de moins qu'en 2021, donc ça veut dire que ça se dégrade. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Cécile ?
Il faut s'inquiéter parce que de quoi on parle ? On parle de l'eau. L'eau, c'est le composant majeur de notre corps. C'est quelque chose dont on meurt si on est privé et quelque chose qui est extrêmement précieux et qui est un bien commun parce que c'est l'eau qui est dans les nappes phréatiques, dans nos rivières. Donc ça devrait être géré de manière beaucoup plus responsable.
Jusqu'à présent, on avait l'impression que c'était automatique, on avait de la bonne eau dans le robinet. L'eau devient donc un enjeu désormais en France.
L'eau est un enjeu, et un enjeu aussi du fait de la sécheresse. La baisse de l'eau est 14% depuis 1990. Il y a 97% des départements, c'est-à-dire presque la totalité du territoire français, qui a vécu des restrictions d'eau ces dernières années. Donc on est dans un moment de tension et donc il faut qu'on soit extrêmement sensible à la préservation de notre source en eau et à sa qualité.
Sur cette question en particulier de l'aggravation de la pollution, on fait quoi ?
D'abord, on est conscient de ce qui se passe. On avait lancé un plan Ecophyto en 2008, au moment du Grenelle dans l'environnement, pour diviser par deux d'ici 2018. Ça a augmenté et depuis...
Pour diviser quoi ? La consommation ?
Pour diviser la consommation des pesticides par deux. Depuis 2018, c'est stable, c'est-à-dire que rien ne se passe. Donc on voit bien qu'il faut... aller un peu plus loin.
Relancer la machine.
Voilà. Et faire en sorte justement que la qualité de l'eau naturelle s'améliore dans notre pays.
Il faut appliquer le principe pollueur-payeur. C'est ce que recommande l'UFC Que Choisir. Vous disiez, juste avant de rentrer dans ce studio, qu'au fond, ce ne sont pas ceux qui consomment, enfin ce ne sont pas ceux qui polluent, qui paye, pourquoi, comment, qui pollue et qui consomme ?
On a un sujet, c'est que la majeure partie de la pollution qu'il faut traiter dans les eaux, d'ailleurs on le voit bien géographiquement, puisque c'est plutôt au nord de la France, ce sont des pesticides qui sont utilisés par les agriculteurs, pas tous les agriculteurs d'ailleurs, par certains agriculteurs et certains sans mesure. Et donc ce serait logique que ce soit eux qui financent le traitement de l'eau. Aujourd'hui c'est les consommateurs, puisque ce coût il est d'environ 1 milliard, il est payé par les consommateurs qui ne sont pas responsables. Pour n'importe quelle autre pollution, on trouverait ça quand même très bizarre. Et pour l'eau, on l'accepte, ce qui me semble absolument illogique. Donc, on doit agir.
Et puis, il y a une question, c'est les captages. Visiblement, là aussi, il y a une augmentation préoccupante des pollutions. Que faire ?
Oui, parce qu'avant de traiter l'eau, il faut la récupérer. Si on la récupère de très bonne qualité, on a moins besoin de la traiter. C'est mieux pour la santé et c'est moins coûteux. Donc, il faut améliorer la protection des captages, élargir le périmètre qui protège ces captables d'eau potable. On l'a vu, je le redis, y compris avec les autres sources, parce que l'affaire Nestlé n'est pas terminée. Donc cette question de la protection des lieux de captage, notamment des nappes phréatiques, doit être vraiment une priorité.
Merci beaucoup Cécile. Cécile Duflo, la voix de gauche sur RMC. Demain à votre place, ce sera la voix de droite, Louis Sarkozy. Il est 7h56, dans un instant, le journal de 8h. Réunion à 10h ce matin à l'Elysée sur le narcotrafic, après l'assassinat du frère d'un militant antidrogue à Marseille. L'omerta s'installe, l'angoisse s'installe aussi chez les militants anti-drogue. Il faut taper les criminels au portefeuille. Voilà ce que la réunion à l'Élysée devrait acter. Et puis la météo, c'est une semaine hivernale. Il fait froid. Et l'économie, Manu Le Chip vient de rentrer dans ce studio. Avec vous, on va parler d'une disparition, Manu.
Oui, je vous emmène sur la route des aventuriers des milliards perdus. Bercy a perdu entre 5 et 10 milliards d'euros de recettes de TVA.
10 milliards
que
tombés dans un trou.
Sont-ils devenus ? On mène l'enquête.
À tout de suite, il est 7h57.
RMC jusqu'à 9h, Apolline Matin.
Très belle journée à l'écoute d'RMC, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La guerre contre le trafic de drogue, réunion de crise ce matin à l'Elysée, en pleine spirale de violence à Marseille et à Grenoble ces derniers jours. On va tout vous expliquer. Les maires de toute la France convergent en ce moment vers Paris pour le congrès des maires qui va commencer là dans quelques heures avec de nombreuses colères, vous verrez. Et on consomme beaucoup trop d'antibiotiques en France. Ça redevient automatique. On a les derniers chiffres ce matin.
C'est une grande réunion sur le narcotrafic qui va se tenir ce matin à l'Élysée.
Oui, c'est Emmanuel Macron qui a convoqué son Premier ministre, plusieurs ministres, le procureur marseillais, les patrons de la police nationale et judiciaire, quelques jours seulement après la mort par balle à Marseille du frère du militant anti-drogue Amine Kessassi, avec la piste du crime d'avertissement qui est ouvertement évoqué. Certains militants, d'ailleurs, dans ce combat, disent qu'ils arrêtent ce combat contre les narcotrafiquants. Combat bien difficile à mener, Constance Bostoen.
La criminalité organisée et le narcotrafic sont installés en profondeur en France. C'est le constat dur dressé par Frédéric Lauze, secrétaire général du syndicat des commissaires. Il évoque même une guerre asymétrique.
On est face à des délinquants qui sont agiles. On n'y arrive pas parce qu'il faut plus de moyens pour la police judiciaire, plus de moyens en hommes. La procédure pénale n'a cessé de se complexifier. Donc on manque de temps, on manque de moyens. C'est comme si on courait un 100 mètres avec des poids de 10 kilos au pied.
Des difficultés soulevées aussi par les acteurs de la justice. Aurélien Martini, le secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats, estime lui que le combat sera long et difficile.
Il faut sur ce sujet être très concret, dire qu'il n'y a pas de solution magique. Ça, c'est important. On va pas régler le problème du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. L'Italie a mis du temps à desserrer l'étau de la mafia et elle est encore présente.
Tous deux espèrent que la réunion organisée par Emmanuel Macron permettra aux acteurs du monde de la police et de la justice de se mettre, je cite, en ordre de bataille contre le narcotrafic.
L'autre rendez-vous du jour, c'est le début à Paris, porte de Versailles, ce matin, du 107e congrès des maires. C'est tous les ans à la même époque, mais alors là, ça tombe en plein débat budgétaire. C'est un sujet de colère, on va en reparler. Il y a 4 mois aussi, des élections municipales. Ça aussi, sujet d'inquiétude, en tout cas parce que les règles vont changer en mars prochain pour les municipales. Même les petites communes, celles de moins de 1000 habitants, vont devoir se mettre à la parité. Et alors, Romain Cluzel, vous avez enquêté pour le service politique RMC, c'est le choix de la rédaction ce matin. Les maires que vous avez interrogés vous disent que ça rajoute de la complexité.
Oui, et ils sont une majorité à rejeter cette parité pour leur liste. Près des 2/3 dans les communes de moins de 500 habitants, selon une étude du Cevipof publiée il y a quelques jours. Leur crainte principale, c'est de ne pas trouver assez de candidats et de candidates. La parité pour toutes les communes, cela désole Pascal Québec. Elle est maire de Beausugan en Gironde, une commune de 47 habitants seulement.
Pourquoi nous obliger à ça? Pourquoi? Ça rime à quoi? La valeur d'une personne ne se limite pas au fait qu'il soit homme ou femme.
Les maires doivent pédagogie pour convaincre de potentielles candidates. Le principal frein, c'est le temps que cela prend, en plus du travail et de la vie familiale. Séverine Mettet a sauté le pas, elle est infirmière libérale et elle a accepté de faire partie de la liste de son maire à Ruillé-en-Champagne dans la Sarthe. Cette infirmière libérale a accepté parce qu'elle n'a eu plus que 10 réunions par an pour participer au conseil municipal. Et le maire, justement, Thierry Dubois, veut voir le côté positif de ce changement.
Monsieur le maire m'a dit que normalement, ça serait pas trop de réunions, une réunion par mois, c'est ça?
C'est ça, oui.
Avec des dates anticipées. Ça m'a rassurée. S'il n'y avait pas eu cette parité, j'aurais pas dit oui, en fait.
On vient donc d'entendre Séverine Mettet et c'est désormais le maire, justement Thierry Dubois. Lui, il veut voir le côté positif.
Évidemment, c'est une contrainte, mais c'est aussi une chance. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'on a la possibilité d'inviter et de faire découvrir la vie communale à de nouvelles personnes.
Et il insiste, le plus important est d'anticiper. Thierry Dubois a commencé sa liste dès cet été pour donner le temps de la réflexion à Séverine et aux autres membres de la liste.
Voilà le choix de la rédaction signé Romain Cluzel ce matin sur RMC.
Et puis notez que mon invité à 8h30, ce sera le président de l'Association des maires de France, lui-même maire de Cannes, David Lisnard. Et puis ce soir, les maires seront à l'honneur sur RMC. Ce soir, les maires, c'est le Grand Prix des maires RMC, un concours qui existe depuis plus de 10 ans, qui récompense les innovations des élus du quotidien. Il y a plus de 400 communes qui ont été candidates, 7 vainqueurs, des centaines de maires ce soir au Lido pour la grande cérémonie finale. Vous entendrez certains des vainqueurs demain dans les grandes gueules, donc ce grand prix des maires RMC qui se tient ce soir. Il est 8h05.
Congrès en plein débat budgétaire au Parlement. D'ailleurs, écoutez ce qu'en pense Emmanuel Macron de ces discussions en ce moment sur le budget.
Et je le redis ici, est-ce que je suis satisfait tous les jours de ce qui est voté au Parlement? Non. Mais est-ce que je pense que la stabilité politique est nécessaire et la recherche de compromis indispensable? Oui.
Voilà, vous entendez Emmanuel Macron parler de la situation politique un an et demi après la dissolution de l'Assemblée, vidéo qu'il a publiée sur son compte X à l'issue du sommet Chouz France. Les soucis s'accumulent au musée du Louvre. En plus de la sécurité, désormais c'est le plancher, le plancher d'une des galeries qui risque de s'effondrer, en l'occurrence la galerie Campana, fermée par précaution, elle venait pourtant d'être rénovée. Elle abrite de la céramique grecque dans le prolongement de la galerie Apollon, où ont été dérobés il y a environ un mois les joyaux de la couronne. C'est une des informations de la matinée. Les antibiotiques redeviennent automatiques. La France fait même partie des champions d'Europe en la matière et ça pose des problèmes de santé pour ceux qui en prennent trop. C'est l'alerte ce matin de Santé publique France, Romain Houck, pour RMC. La prescription et la consommation d'antibiotiques sont reparties à la hausse l'année dernière.
Oui, la prescription antibiotique augmente de 4,8%, leur consommation de 5,4%. La tendance était pourtant à la baisse depuis 2014, mais voilà, les épidémies saisonnières de l'hiver dernier, comme la grippe ou la bronchiolite, ont ravivé les mauvais réflexes avec trop de prescriptions d'antibiotiques, pourtant inutiles dans de très nombreux cas, selon Santé publique France. Résultat, avec 860 prescriptions d'antibiotiques pour 1000 habitants, la France est bien loin de l'objectif de 650 prescriptions pour 1000 habitants fixé pour 2027. Et le pays remonte de la 5e à la 2e place au classement des plus gros consommateurs en Europe. Alors, pourquoi c'est un problème ? Eh bien, parce que cette surconsommation favorise l'apparition des bactéries résistantes aux antibiotiques et donc des maladies plus difficiles à traiter. Ça s'appelle l'antibiorésistance. L'Organisation mondiale de la santé considère que c'est aujourd'hui l'une des principales menaces de santé publique et a raison, puisque ça compromet l'efficacité de traitements vitaux comme contre la tuberculose et ça peut rendre mortelles de simples infections courantes.
Puisqu'on parle de santé publique, grande nouveauté ce matin, la carte vitale débarque sur smartphone. On pourra l'utiliser comme une carte bancaire en fait partout en France désormais. Le dispositif est disponible jusque-là mais seulement dans la moitié du pays. Grand changement aussi en préparation chez EDF, le géant de l'électricité, qui va interdire à partir de l'année prochaine la consommation d'alcool sur tous ses sites. Fini les petits pots entre collègues avec une bière ou un verre de vin. Pareil pour les séminaires ou les repas d'affaires. Désormais, l'alcool sera banni. Au nom de la santé publique, au nom de la lutte contre l'alcoolisme, c'est déjà le cas par endroits comme chez vous à Rennes, Martin Lange pour RMC.
Sur ce site d'Enedis, filiale d'EDF, l'alcool est banni depuis plusieurs années, pendant les heures de travail, mais aussi en dehors, Victor, 35 ans.
C'est pas du tout un problème, non ? On fait notre pot de départ, ça reste au jus d'orange et au petit gâteau, c'est très sympa. Après, si on souhaite, on peut aller en moment un peu plus off entre nous. Mais bon, pas l'entreprise en tout cas.
Une interdiction qui concerne également les déjeuners pour lesquels l'alcool n'est plus remboursé.
C'est vrai qu'au début, ça fait un peu de bruit, forcément, par rapport à cette génération. T'es plutôt habitué à avoir de l'alcool un peu sur les moments du midi, voilà, ça a pu un peu grogner, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plutôt rentré dans les mœurs.
Régis, 30 ans d'ancienneté, fait justement partie de cette génération. Il a notamment passé plusieurs réveillons d'astreinte.
On allait acheter par exemple des huîtres et on buvait juste un petit verre de vin blanc avec les huîtres, mais c'était tout, ça restait là. Mais maintenant c'est plus possible, c'est interdit. On s'y adapte, on prend la bière après le travail et puis c'est tout.
Des moments rares certes, mais qu'il ne faut pas banaliser selon Hugues Renaud, addictologue.
Couvert de moments festifs, cautionne la consommation. La politique de prévention, c'est ça. C'est éviter la banalisation, éviter de faire croire à chacun qu'une consommation peut être anodine.
Des spécialistes qui se félicitent que les entreprises mettent fin à la tolérance pour les alcools dits légers. De l'alcool, c'est de l'alcool. Il n'y a pas de distinction à faire.
Bon, et puis une info en foot, les Bleus qui envisagent une tournée aux États-Unis au mois de mars l'année prochaine pour préparer la Coupe du Monde avec deux matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie. Ils sont évoqués ces matchs en attendant. Je vous signale que ce soir, l'ancien directeur du PSG, Leonardo, sera le grand invité de l'After. Sa parole est rare, évidemment, ça ne pas manquer.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h09 sur RMC et RMC Story. C'est l'heure de parler économie. Il y a 10 milliards qui se sont évaporés.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel. Emmanuel, le chiffre, il manque 10 milliards, 10 milliards de recettes de TVA dans le budget 2025 et Bercy ne sait pas où ils sont passés.
Et oui, rappelez-vous déjà la polémique autour du budget 2024. Bercy s'était trompé dans les grandes largeurs sur les prévisions de rentrée fiscale. 20 milliards d'euros à l'époque manquaient dans les caisses. Alors les plus excessifs avaient parlé de scandale d'État. Bruno Le Maire avait dû se justifier devant une commission d'enquête parlementaire. Eh bien, le cauchemar continue pour nos virtuoses des finances publiques, puisque cette fois-ci, ce sont effectivement pas loin de 10 milliards d'euros qui manquent à l'appel. Et il faut rappeler que la TVA, c'est l'impôt qui rapporte le plus. On est autour de 200 milliards
normalement,
d'euros.
S'il ne manquait pas ces 10 milliards, pourquoi ces 10 milliards ne sont pas rentrés dans les caisses ?
Alors, d'ores et déjà, il y a une commission d'enquête qui a été lancée, mais la ministre du Budget, Amélie de Montchalin, elle a une explication qu'elle met en avant, c'est les petits colis en provenance de Chine, notamment, j'ai envie de dire, encore eux.
Ouais. Ils ont bon dos,
dont le nombre explose. Alors, en fait, la valeur de la majorité de ces colis serait sous-estimée, mal déclarés, avec des montants trop bas pour être correctement taxés. Donc en fait, chaque petit colis pas cher serait potentiellement une micro-fuite fiscale, mais quand il y a des dizaines, voire des centaines de millions de colis, ça finit par faire des grosses sommes.
Hein. Ça ne peut pas tout expliquer, 10 milliards, 10 milliards.
Non, il y a d'autres explications qui sont autant de sujets de migraine d'ailleurs hein, à Bercy. Il y a l'augmentation de la fraude intracommunautaire, sans doute, puisqu'il faut rappeler que la TVA est l'impôt le plus facile à esquiver. Il y a le changement de comportement des consommateurs qui, depuis le Covid et la flambée de l'inflation, achètent davantage de produits peu ou pas soumis à la TVA. C'est les produits de première nécessité, les produits de seconde main. Il y a les entreprises qui ont dû réduire leurs marges pour continuer à vendre à des prix serrés. Bah, et donc, et moins les prix augmentent, bah, moins ça fait de rentrée de TVA. Alors, il y a des améliorations attendues, notamment avec la facturation électronique, hein, vous savez, qui oblige les entreprises maintenant à déclarer tout d'ici 2027. Ça pourra rapporter 2-3 milliards, mais ça ne suffira pas. Bercy ne pourra pas faire l'économie d'une remise à plat de ces modèles de calcul qui ne correspondent plus à l'économie d'aujourd'hui. Et puis, on a envie de dire, mais de toute façon, est-ce que c'est pas vain, hein, tout simplement, faisons comme font, par exemple, les Néerlandais. Les Néerlandais, ils savent qu'ils maîtrisent parfaitement les dépenses. Parce que c'est eux qui les décident. Les recettes, on ne sait pas trop. Donc en fait, ils ont une prévision de croissance moyenne. Et puis ils se disent, si la croissance est supérieure et qu'on fait plus de recettes, tant mieux. Mais nous, ce qu'on maîtrise, c'est les dépenses. Donc arrêtons de nous focaliser.
C'est pas tout à fait ce qu'on maîtrise.
Arrêtons de nous focaliser sur les recettes et pensons un peu aux dépenses.
On n'a pas vraiment l'impression qu'ils ont beaucoup maîtrisé les dépenses.
Non, parce que non. Puis en plus, quand vous discutez d'amendements de centaines, de dizaines de millions, etc., à quoi ça sert d'enflammer le Parlement pour ça, alors qu'on se trompe de dizaines de milliards.
Et Emmanuel va mener l'enquête, les 10 milliards d'euros. Merci Manu. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche qui nous rejoint. Et puis je vous redonne l'info, l'invité ce matin à 8h30, le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Et puis à 8h50, bien sûr, il y aura Face à Canteloup. Il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
8h16, Arnaud Demanche qui nous rejoint. Salut Arnaud.
Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous, au moins vous, parce que le reste du pays va mal, Apolline. Oui. Très mal. Je lisais un article du Figaro ce matin sur la fatigue des députés pendant l'examen du budget. C'était intitulé « Tension, blagues graveleuses et trafic de bonbons à l'Assemblée, plongée dans l'enfer des nuits budgétaires ». Ça fait peur, On dirait un reportage d'enquête exclusive. Bonjour, je suis Bernard de la Bernardière et nous nous sommes infiltrés dans les favelas de l'Assemblée nationale entre bonbec et blagues tendancieuses. Écoutez cette caméra cachée à voix modifiée.
Et Jean-Pierre, tu connais l'histoire du rabbin au bois de Boulogne ? C'est Sandrine Rousseau qui me l'a raconté. Alors c'est un rabbin qui va voir une brésilienne.
La séance reprend, mesdames et messieurs.
Quel niveau ! Non mais vraiment, imagine-t-on Édouard Balladur faire des contrepétries à Simone Veil, hein ?
Simone, faut qu'on prenne rendez-vous. Je te laisse le choix dans la date. Non.
Bravo, c'est d'une élégance. Au moins, Valéry Giscard d'Estaing, il a jamais raconté des blagues limites et trafiqué des bonbons à l'Assemblée.
Bonjour, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, nous allons aborder la loi de finances rectificative pour les dotations pluriannuelles aux collectivités locales. Mais d'abord, cette question, connaissez-vous l'histoire de l'homme à 5 bits ?
Oh non !
Eh bien, son slip lui va comme un gant. Voilà. Ce genre de propos liminaire étant posé, qui veut un Ricola ? Ricola !
Parce que trafic de bonbons aussi. Mais ils ont quel âge ? J'imagine la déception de Louis Boyard quand François Hollande va lui faire passer de la cam, c'est hey, « Eh gamin, hé, hey, t'en veux ?»« Ah ouais, grave, putain, c'est marrant, c'est en forme de Haribo. »« Mais c'est des Haribo. »« Hein ? Mais c'est nul, c'est pas, ça fait pas planer, ça !» Alors, dans l'article sur l'addiction des députés, il y a aussi cette phrase terrible sur Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes Publics, qui, je cite, « savoure un thé verveine bien chaud. C'est la clé pour tenir le rythme, chuchote-t-elle. » Ça et la coke, mon Dieu! On a des députés accros au thé verveine, revendus par des dealers de la TZ Mafia. En même temps, l'examen du budget, c'est chaud. Il y a 1600 amendements à examiner. Du coup, ils ont demandé à se reposer. C'est vrai, la fatigue se fait sentir. Ils commençaient à faire n'importe quoi, là, depuis... 2 ans,
ouais.
2 jours, ça me paraît pas assez pour se reposer. Reposez-vous mieux, restez chez vous, partez même, démissionnez, dehors. Par contre, au RN, il va falloir que quelqu'un se dévoue pour annoncer à Jordan Bardella que les vacances au Parlement européen sont terminées. Là, depuis début septembre, il va falloir revenir, que quelqu'un le secoue, lui fasse « Jordan, réveille-toi, allez, t'as 3 mois de retard, il faut aller à Bruxelles.
J'ai basic fit, j'ai pas envie. »
L'Ukraine, Arnaud, qui a annoncé vouloir acheter jusqu'à 100 rafales à la France.
Oui, Zelensky est allé voir Macron hier, il lui a dit « Monsieur le Président, je vous achète 100 rafales. »
Oui, c'est une bonne nouvelle, Volodymyr, mais... Alors, excusez-moi de poser la question, c'est peut-être indélicat. Vous êtes solvable?
Voilà, c'est ça. C'est la
question. Non. Bah alors, qui va payer?
Bah, c'est vous, c'est comme d'habitude. Vous voulez quand même pas laisser Poutine envahir l'Europe?
Non, c'est pas ça, c'est très cher quand même.
Bah, vous avez qu'à vous les vendre moins cher.
Non, mais non, attendez. J'ai dû rater un truc. Attendez, je vérifie. Allô? Le cornu? T'es toujours Premier ministre? Bon, il va falloir trouver 10 milliards d'économies en plus parce que visiblement, on en a besoin pour s'acheter nos propres rafales. On s'est mal débrouillé.
À Champigny-sur-Marne, des parents d'élèves ont dû retirer une banderole réclamant plus de soutien scolaire pour leur enfant handicapé.
Oui, vous avez vu cette histoire. Ce matin, j'ai envie de vous faire rêver. Vous faites voyager, vous emmène à Champigny-sur-Marne. En fait, des parents d'élèves réclamaient des AESH, donc des accompagnants des élèves en situation de handicap. Et ils ont mis plus, on veut plus d'AESH sur la banderole. Là-dessus, la police est venue et ils ont lu « On veut plus de Daesh ». Et oui, la confusion bête. Là, ils ont débarqué, ils ont fait « Alors, comme ça, on soutient les islamistes ? Eh ben, c'est du propre. Si j'avais le droit d'être armé, je vous tirerais dessus. » Non, mais non, monsieur, on en a besoin pour accompagner le voyage scolaire en Asie. En Asie ? Oh, de mieux en mieux ! Joseph, sors le taser. Non, non, arrêtez. En plus, si vous avez fait tomber mon sac, il faut que je le ramasse. Le Hamas ! Elle soutient le Hamas ! Mais non, je vous explique. On a des enfants handicapés, on les emmène faire du scoutisme cet été, on a besoin de quelqu'un pour les garder dans le camp. Elle veut mettre des handicapés dans des camps ! Mais non, c'est du scoutisme, c'est des camps à la Yukaidi, Yukaïda, des camps d'Al-Qaïda, Al-Qaïdi, Al-Qaïda ! Allez, bon courage les parents d'élèves, on est avec vous, à demain.
Merci Arnaud, Arnaud Demange tous les jours à 7h20 et à 8h20. Il est 8h21, on va partir au 32-16. Cédric qui est avec nous, qui nous appelle d'Indre-et-Loire et qui est agriculteur. Bonjour Cédric. Vous avez entendu sans doute la chronique d'Arthur Chevalier tout à l'heure qui disait qu'il y avait 40 000 fermes qui avaient disparu en 3 ans. Vous vouliez témoigner?
Oui, je voulais témoigner parce que de toute façon aujourd'hui c'est la résultante d'une politique ou d'une absence de politique depuis de nombreuses années. Depuis Pisani en gros qui avait fait une politique agricole avec une loi d'orientation forte pour pouvoir nourrir la France à l'époque et ça a marché, mais depuis il n'y a pas eu vraiment de politique agricole vraiment forte pour orienter l'agriculture.
Vous trouvez que c'est dur, vous, au quotidien? Cédric, vous avez 41 ans, vous avez quoi comme exploitation?
Alors moi j'ai des céréales et des porcs.
Ouais.
Et oui, c'est au quotidien, c'est un métier dur. C'est un métier dur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se dégagent pas d'argent de leur exploitation. Et c'est aussi ça la problématique, c'est que quand on vit pas de son métier, à un moment donné, ça donne pas envie aux jeunes, à la future génération, de même si certains sont passionnés, mais ça leur donne pas envie d'aller s'installer pour ne rien gagner.
À refaire, vous, Cédric, vous reprendriez?
Oui, je le referais. Oui,
vous le referiez.
Mais après, il y a aussi l'aspect normatif, parce qu'aujourd'hui, les différentes normes qui succèdent en France, en Europe, et puis surtout la France qui est championne du monde pour faire plus que ce que l'Europe demande. Et il y a les normes, il y a les réglementations.
On se rajoute les normes, les réglementations. Et avant de tailler une haie, j'avais regardé, vous aviez pratiquement 20 formulaires à remplir avec des cases à cocher sur la taille de l'une ou de l'autre. Merci en tout cas Cédric d'avoir témoigné. Je retiens quand même que Cédric, agriculteur à 41 ans, dit si c'était à refaire, je le referais. Voilà un message qui est passé ce matin, 8h23. Dans un instant, mon invité c'est le maire de Cannes et le président de l'Association des maires de France. Toutes ces difficultés auxquelles sont confrontés les maires. Dans une heure maintenant, le congrès des maires de France va ouvrir ses portes. On en parle bien sûr avec David Bisnard dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h28, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour David Lisnard.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin, à quelques heures de l'ouverture du Salon des maires, le grand Salon des maires, et surtout à 3 mois des municipales. De nombreuses questions et difficultés auxquelles les maires sont confrontés. Laissez faire les maires, c'est votre cri du cœur. Vous voulez moins de normes, plus d'autonomie, notamment financière. On va y revenir. Mais d'abord, cette question qui concerne désormais tous les territoires et donc tous les maires de France, la question du narcotrafic, des étapes, des terribles étapes ont encore été franchies ces derniers temps. Un jeune de 12 ans entre la vie et la mort, le frère d'un militant anti-drogue de Marseille qui a été pris pour cible, et cette réunion dans 1h30 maintenant à l'Élysée, énième réunion j'allais dire pour tenter de lutter contre le narcotrafic. C'est une question à laquelle vous êtes constamment confrontés, les maires, sur le terrain. Qu'est-ce que vous attendez de réunions comme celle-là?
D'abord, merci beaucoup de votre invitation et de cet intérêt pour ce plus grand rendez-vous mondial d'élus. Hein, c'est la France, le pays réel qui va être concentré porte de Versailles. Le narcotrafic, c'est pour ça qu'il faut souvent écouter ce que l'on dit dans le Congrès plutôt que les relations avec le président, etc. Nous avions alerté depuis des années. Je me souviens très bien avoir dit que dans un passage dans l'Allier, j'avais remarqué que des villages que j'ai connus quand j'étais petit devenaient, il y avait des points de deal en pleine ruralité. L'année dernière, nous avons organisé, quand on voyait que ça bougeait pas, une grosse table ronde au Congrès des maires sur le narcotrafic. Étaient venus notamment les deux sénateurs qui avaient co-rédigé cet excellent rapport, et il en a résulté la loi, qui est une bonne loi. Hein. Et parce que cette réalité-là, nous la vivons, et dans les grandes villes, dans les villes moyennes, mais aussi dans les villages. Ce qu'il faut maintenant, comme toujours en France, au-delà des séquences de com', au-delà des affichages
ou des réunions d'urgence à nouveau.
Mais réunions d'urgence, président de la République, c'est pas lui qui, enfin, c'est la police qui agit, c'est la gendarmerie, c'est la justice, éventuellement le gouvernement, mais enfin, on sait très bien qu'on est dans un contexte où il n'y a pas de majorité, etc. Donc tout ça, c'est de la séquence. Ce qu'il faut maintenant, c'est de l'exécution des choses. Hier, le sénateur Étienne Blanc, qui est un des deux co-auteurs du rapport, intervenait sur la réunion que nous organisons sur les Outre-mer, où qui sont souvent une porte d'entrée hein, des stupéfiants, même s'il y a de plus en plus de production locale, mais pour les drogues de synthèse, pour la cocaïne, etc. Et donner ces chiffres terrifiants. Le trafic de drogue, c'est au moins 7 milliards de chiffres d'affaires. On pense même que c'est plus. Le budget de la justice, c'est-à-dire avec les pénitenciers, les
tout
prisons
compris,
et tout, c'est 10 milliards. Hein, il faut juste mettre ça à l'échelle, alors que la justice, c'est le cœur de l'État. Deuxièmement, il y a 250 000 personnes au moins qui vivent du trafic de drogue. Et souvent, ce sont des familles, parce qu'on dit il faut attention à la responsabilité des familles, etc. Toutes les forces de l'ordre en France, gendarmerie, police, c'est moins, c'est 220 000 personnes. Et on voit ces méthodes de violence extrême, d'entrisme aussi, qui gangrènent le pays. Et qui aujourd'hui sont un phénomène qui nous renvoie. Ben quand
vous parlez des familles, est-ce que ça veut dire que vous considérez, comme un certain nombre de maires, David Lisnard, qu'il faut responsabiliser les familles, c'est-à-dire qu'il faut que s'il y a un jeune délinquant dans le narcotrafic, éventuellement pénaliser la famille avec la question de l'accès au logement social, avec la question des allocations.
Oui. Alors. Il faut préciser les choses. Il faut retrouver les principes de l'état de droit et il faut montrer que la démocratie, c'est pas l'impuissance. Parce qu'autrement, on ouvre la voie à toutes les aventures les plus extrémistes, les plus autoritaristes. Que les choses soient claires. Quand c'est un majeur, il doit être responsable de ses actes. Quand c'est un mineur, alors on propose avec Alexandra Martin, députée, un changement du code pénal des mineurs, mais c'est pas compliqué. Quand il n'y a plus de responsabilité individuelle, il y a toujours une punition collective, tout le temps. Pour la société. Or moi, je veux bien être responsable de mes enfants mineurs, mais pas et c'est pas facile.
Mais pas de ceux des autres.
Donc, si on n'a pas ces principes simples, je vois tellement de familles où il y a de la complicité en fait. On nous sort des discours, on n'était pas au courant, etc. Mais sur le recel, sur le stockage, sur la protection, sur des faux témoignages. Moi, j'ai ça tous les jours.
Il faut des conséquences.
Donc, soit
le logement,
il est responsable, soit il est responsable individuellement et la famille n'est pas responsable. Soit il est mineur, il est sous la responsabilité de sa famille et il faut bien qu'il y ait une responsabilité. Il y a tellement de gens honnêtes qui attendent un logement. Il y a tellement de familles et dans les milieux populaires, les gens sont très honnêtes comme partout quoi. Donc il faut s'occuper des gens bien.
David Lisnard, quand vous dites il faut s'occuper des gens bien, on entend peut-être le nouveau slogan des LR, la France des honnêtes gens, mais j'imagine que c'était pas forcément, c'était peut-être même inconscient. David Lisnard, quand vous dites à l'instant la question aussi de tous ces gens qui attendent notamment des logements, vous avez sans doute vu cette réflexion lancée par le ministre, issu des LR d'ailleurs, Vincent Jeanbrun, qui veut mettre fin au HLM à vie. Alors, ça n'existe déjà pas officiellement, mais dans les faits, il est très difficile de faire un turnover. C'est du déclaratif, mais certaines familles qui ne pourraient plus prétendre aujourd'hui à un logement social, ils restent quasiment à vie. Est-ce qu'il faut en effet mettre des baux 3, 6, 9, où on doit à chaque fois représenter un dossier?
Oui, alors c'est pas nouveau d'ailleurs, ça fait longtemps que c'est évoqué dans le débat, parce que aujourd'hui, ça devient un statut, et ça doit pas être un statut, ça doit correspondre à des réalités sociales. Le problème, c'est que quand vous statifiez quelque chose, ça se fait au détriment des gens les plus modestes. Mais là aussi, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. La difficulté en France, c'est que s'il y a une rotation dans les logements sociaux que j'appelle de mes voeux, et le ministre a raison là-dessus, qu'est-ce qui se passe après pour ceux qui sortent des logements sociaux? On a quand même tué tout le marché du logement. Cette année, on va avoir de mise en logement neuf 250 000 logements à peu près, moins de 300 000. Je rappelle que quand le président Pompidou est mort, ça ne nous rajeunit pas, en 74, il y avait 450 000 logements neufs, alors qu'il y avait 10 millions d'habitants en moins. Au passage, c'est 200 000 emplois en moins si on faisait des logements. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça renvoie à toutes ces réalités locales que l'on vit, nous, dans nos communes tous les jours. La crise du logement, c'est la plus grande crise sociale. L'AMF avait alerté du temps de mon prédécesseur François Baroin. J'ai retrouvé ses déclarations en 2017 et tous les ans disaient attention, ça va arriver. Parce qu'on a...
Donc on aurait pu anticiper, on le savait.
Bien sûr, mais comme beaucoup de choses, comme la crise de la santé, on sait depuis 30 ans qu'il va y avoir un vieillissement de la population. On va avoir un atelier de travail sur le vieillissement de la population. Il va falloir... On fait plus de gosses et on vit de plus en plus vieux. Donc on consomme de plus en plus de soins médicaux. On le sait, il fallait anticiper. Et je rappelle juste que l'AMF alerte sur le fait que sur les prochaines années, il en devra fermer 5000 écoles et ouvrir 500 EHPAD. Hein, c'est ça la
France
aujourd'hui.
Parce que c'est la pyramide des âges qui évidemment se transforme.
C'est pour ça que le système de répartition ne fonctionne plus.
Qui est de moins en moins une pyramide et qui est le sommet de plus en plus en bas.
Voyez, entre le local et le global, tout est cohérent.
Et justement, David Lisnard, je le disais, vous réunissez à partir d'aujourd'hui 12 000 maires qui vont être réunis en congrès. C'est à 4 mois des élections municipales. Ce sera le 15 et le 22 mars prochain. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les différents sondages disent que les questions majeures pour les prochaines municipales, c'est la sécurité, c'est la question de la santé, c'est la question aussi de la mobilité. C'est ça, aujourd'hui, vos priorités?
Oui, le maire, c'est le mandat de la qualité de la vie et de la dynamique locale. Hein. J'ai vu ce sondage qui est intéressant, c'est-à-dire que les Français, maintenant, transposent vers les maires des sujets qui sont tous des sujets régaliens, ou des sujets de l'État, notamment la sécurité. Et donc, beaucoup de Français vont vers la dernière figure qui, peut-être, tient encore le coup sur le plan institutionnel, que sont les maires. Alors, il ne s'agit pas de dire que tous les maires sont formidables. Hein. Il y a des mauvais maires, il y a des mairies mal gérées, enfin, comme il y a des entreprises, enfin, c'est la vie, ça. Mais on voit bien que c'est encore un échelon de qui fonctionne. Je dis souvent qu'on est les praticiens du quotidien et on a montré depuis 6 ans, crise Covid, inflation, accueil des réfugiés, etc., que l'on était des urgentistes de la République. Bon. Donc ces sujets-là, ils reviennent partout, dans les villages, dans les grandes villes, dans les villes de gauche, dans les villes de droite, dans les villes où il n'y a pas de positionnement politique. Et ils vont être évoqués dans ce congrès où on va aussi poser les problématiques de l'intelligence artificielle. On va beaucoup travailler sur ces questions-là, comment on peut améliorer la gain de productivité, comment on peut donner des solutions dans les petites communes.
Parce que, il faut le dire, vous aurez moins de sous.
Oui,
il faut quand même se rendre à l'évidence. Ouais. Le budget tel qu'il est en train d'être discuté, mais c'était déjà le cas des deux précédents budgets, il va quand même vous donner moins de sous. Globalement, on resserre la vis à nouveau des collectivités locales.
Alors, malheureusement, c'est un peu plus pervers, parce que si c'était resserrer la vis pour assainir les comptes publics, pourquoi pas? Je veux dire, on est tous soucieux de l'assainissement des comptes publics. Les intérêts de la dette de l'État vont représenter, je parlais du budget de la justice, 6 fois le budget de la justice. Avec vos impôts, nous allons payer 6 fois plus pour les intérêts de la dette d'un État qui ne se réforme pas que pour tout le budget de la justice. Le problème, c'est pas ça. C'est que c'est pas des économies qu'on nous demande. Ça c'est le récit qu'on sert à l'opinion publique. en disant il faut participer à l'effort avec ce récit infantilisant qui nous exaspère d'ailleurs. Non, en fait, ce sont des prélèvements supplémentaires. C'est-à-dire que l'État prend, comme un drogué de la dépense publique, prend toujours plus sur les ménages, il va s'attaquer à l'épargne, prend toujours plus sur les entreprises et prend toujours plus sur les collectivités. Or, c'est pas en saignant les biens portants qu'on va soigner le malade.
Un drogué de la dépense ?
Oui, bien sûr.
L'État est drogué de la dépense.
Le système social. Moi, je pense, alors c'est pas l'AMF qui parle là, c'est mes convictions personnelles, qu'on est au bout, qu'on est à la fin du système de l'État-providence.
Voilà. Vous considérez encore être, alors vous n'êtes pas député, mais faire partie de la famille du socle commun, ça existe encore pour vous, le socle commun ?
Quelle transition, tout d'un coup.
Non,
du pays réel.
Selon les informations d'RMC, le socle commun, comme on dit, ne votera pas le volet recette. C'est exactement ce que vous disiez à l'instant. L'État drogué à la dépense. Pense. Oui. Si vous étiez député aujourd'hui, est-ce que vous le voteriez sur
ce budget ? Mais moi d'abord, j'ai pas voulu être député. Je m'éclate. Je sais pas si c'est le terme. Mais enfin, je me réalise dans mon mandat de maire et j'essaie de porter une voix nationale aussi. Mais non, moi je pense que ce système est cuit. Que depuis la dissolution, il faut qu'on réamorce un cycle normal dans l'esprit de la Ve République avec un nouveau président de la République, avec un nouveau Parlement. J'ai jamais accepté cette notion de socle commun. Je pense qu'on n'est pas du tout dans une tripartition de la vie politique avec gauche, socle commun, RN. Je pense qu'on est dans une quadripartition, qu'il y a les deux gauches irréconciliables dont parlait Emmanuel Valls avec une extrême gauche qui devient de plus en plus néo-fasciste et anti-républicaine, etc. Une gauche républicaine que je respecte beaucoup, qui essaie de renaître mais qui a des difficultés. Le RN qui se dit ni de gauche ni de droite, et comme je disais récemment, il nous a démontré qu'effectivement il n'était pas de droite sur le plan budgétaire puisqu'ils ont voté 34 milliards d'impôts supplémentaires en 24 heures. Et entre un éparpillement façon puzzle, et c'est de droite, du centre, vous l'appelez ça. Et c'est là qu'il faut cristalliser quelque chose avec un projet clair.
Ça veut dire, David Lisnard, j'ai bien compris. Un, vous dites non, ça, en effet, vous ne le voteriez pas en l'État.
Non,
ça, c'est pour vous invotable, ce budget. Et quand vous dites.
Moi, j'aurais voté la censure, si vous voulez. Donc,
vous auriez voté la censure,
oui,
carrément.
Oui.
Voilà. Vous estimez que la droite, comme vous dites, républicaine, aurait dû voter la censure.
Vous comprenez le côté pervers qui consiste à dire, sous couvert d'une espèce de stabilité, il faudrait que tout le reste soit instable. Instabilité fiscale, instabilité sociale, instabilité économique, une espèce de mantra un peu infantilisant, instabilité, en responsabilité, etc., pour que les mêmes restent au non-pouvoir, d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas de pouvoir.
La stabilité obsessionnelle du pouvoir entraîne une instabilité pour le pays.
C'est formidable quand c'est positif. La stabilité dans la prospérité, la stabilité dans la sécurité, si l'éducation nationale progressait, si notre école était de bon niveau. Or, aujourd'hui, tout le quotidien montre le déclassement.
On va revenir sur la question.
On parlait des narcotrafics, juste.
Allez-y.
Il faut attention à ce que ça ne cache pas l'autre volet de l'insécurité. Il n'y a pas que le narcotrafic. Il y a toute une insécurité qui n'est pas liée au narcotrafic, contrairement à ce qu'on nous raconte aussi. Le narcotrafic, parfois, il assure même l'ordre.
Vous parlez de quoi ?
Mais des rixes, des attaques au couteau, le fait que moi, quand mes gosses sortent dans la rue, je suis pas tranquille, voilà, parce que j'ai peur que mes garçons se fassent agresser par des bandes qui zonent ou que mes filles se fassent embêter, voire pire. Voilà, c'est une réalité. Quand il y avait une rixe au couteau dans notre commune, avant, on en parlait tout le temps. Maintenant, c'est devenu banal. C'est ça, la réalité. Et ça se retrouve
donc
dans les statistiques.
Donc, on n'en parle plus parce que c'est le quotidien ?
Ben oui, il ne faut pas banaliser cela. C'est pas normal. Voilà. Et il y a des choses à faire.
Comment est-ce qu'on fait au niveau national ?
Parce que le pays est tonique,
avant de revenir, effectivement, sur aussi les questions auxquelles vous êtes confrontés, vous défendez, je cite, un projet libéral, sécuritaire et éducatif, oui. Une grande primaire ouverte, mais qui irait de qui à qui ? C'est-à-dire, est-ce que ça va de Zemmour, Knafo, en gros, à Édouard Philippe, Gabriel Attal ? Pour vous, c'est ça ?
Moi, alors, à condition que ces gens-là se réclament d'un principe de droite. Je suis pas sûr que Gabriel Attal, ça dépend des jours, quoi. Voilà. Édouard Philippe, c'est plus le même depuis qu'il est Premier ministre. Hein. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut faire gagner la France, il va falloir s'attaquer à la racine des choses, c'est-à-dire à l'organisation de l'État,
la
performance publique. Non, mais c'est juste vraiment, je vais être rapide. Ça, donc, pour répondre à votre question, je vais pas l'esquiver du tout. Et pour cela, il faut qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller au deuxième tour. C'est pas compliqué, vu la force du RN, vu la force de l'extrême gauche. Donc, il faut faire plus de 15% en premier tour. On peut plus payer le luxe des premiers tours qui départageaient un Balladur, un Chirac, un Giscard, un Barre, etc., etc. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait une cristallisation avec un projet qui soit pas un arrangement de notables. Donc, tous ceux sociaux qui se réclament de la droite, Dupont-Aignan aussi, ces gens-là qui font 3-4 points.
Dupont-Aignan qui, lui, s'était associé au RN.
Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils sont autonomes. Ils vont à la présidentielle, ils font entre 3 points et 5 points. C'est-à-dire qu'ils empêchent d'aller au deuxième tour. Donc, il faut une compétition, il faut démasquer les...
Donc, ça veut dire Dupont-Aignan, ça veut dire Zemmour-Knafour, Reconquête.
Moi, je crois, ouais, je crois. L'UDI, le Nouveau Centre,
Et si certains du RN vous disent, au fond, faisons le même ensemble, est-ce que si Jordan Bardella, à un moment, vous dit, faisons-le ensemble, est-ce que ça vous intéresse?
Mais moi, il est impensable de devenir le croupion du RN, dont aujourd'hui, sur le plan régalien, du centre-gauche au RN, tout le monde est d'accord. Personne n'ose le dire, mais tout le monde est d'accord. Il faut coupler les flux migratoires, il faut rétablir l'ordre, etc. Mais moi, un parti politique aujourd'hui, et c'est pour ça que les macronistes sont très responsables de la situation, ils ont voté avec le RN, les macronistes.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est-à-dire un parti qui vous dit, on va abaisser l'âge de la retraite. Se fout du monde. Aujourd'hui, ils sont en train de planter les jeunes.
Ça veut dire, en fait,
David,
vous êtes en train de nous dire, c'est que les seuls points sur lesquels aujourd'hui vous êtes en désaccord avec le RN, ce sont des points économiques.
Mais c'est colossal.
Ce ne sont plus des questions migration, régalien.
Je me permets juste de dire que le programme régalien du RN, c'est le programme, ils le disent eux-mêmes, et tout le monde le dit, du RPR des années 90.
Donc c'est la droite.
Oui, il faut arrêter les hypocrisies.
Donc ça veut dire que si le RN évolue sur le plan économique, vous pourriez travailler ensemble.
Ça, c'est de la fiction. Moi, je veux faire gagner un projet. Je ne les crois pas. Vous rendez compte que je ne transige pas, y compris au sein de LR, parce que je les trouve trop étatistes, trop interventionnistes. Donc c'est pas pour aller me fourvoyer avec des macronistes, le RN, la gauche.
On est bien d'accord que c'est l'aspect
super
économique. C'est l'aspect économique et étatiste du RN.
Mais c'est plus que ça. C'est la vision de l'État. C'est une question. Une vision de l'homme. C'est-à-dire que moi, je souhaite que chacun soit...
C'est parti des rares libéraux qui assument d'être libéraux en France.
Oui, moi, je pense qu'il y a une majorité de libéraux en France qui ne le savent pas. C'est-à-dire qu'ils veulent simplement qu'on récompense l'effort, qu'on récompense le mérite, que le travail et l'investissement soient compétitifs et rémunérés à leur juste titre, que le pouvoir d'achat, c'est pas les aides sociales, c'est de augmenter le salaire. Et je fais des propositions très concrètes là-dessus. Et parallèlement, qu'on puisse sortir dans nos rues en sécurité. Et enfin, que nos gosses, et notamment quand on est milieu modeste, puissent avoir accès à des bonnes écoles. Donc il faut pourfendre la planification scolaire, il faut enlever toute l'idéologie gauchiste de l'école, etc. Mais le RN, pour moi, il a une matrice très étatiste. Je me suis engagé dans la vie publique pour combattre tout cela. Je les combats.
David Lisnard, je voudrais qu'on dise un mot aussi de ces élus qui n'ont pas la force de se représenter.
Oui.
Parce que certes, il y aura 12 000 maires attendus tout à l'heure à votre congrès.
Même
mais
presque
une
13 000,
partie,
un record.
13 000.
Et 70 000 visiteurs au salon.
Mais une partie d'entre eux n'ont pas la force de se représenter, vraiment jette l'éponge. Qu'est-ce que vous nous dites ce matin à tous ces Français qui vous écoutent sur le respect des maires, sur la question aussi des violences auxquelles ils sont confrontés, des réunions à répétition, des normes, comme vous le disiez?
C'est une très, très bonne question parce que la démocratie locale, c'est encore ce qui fait tenir le pays. Hein, et moi, c'est pour ça que je défends cela, et de façon d'ailleurs transpartisane au sein de l'AMF. On a eu plus de 40 démissions de maires par mois depuis le début du mandat. C'est-à-dire, c'est 4 fois plus qu'il y a 20 ans. À l'époque, on
disait... C'est pas juste des gens qui se représentent pas, c'est des gens qui arrêtent avant.
Qui ont démissionné. On dit, vous n'arrêtez jamais. C'est vrai que tout le monde ressent à un moment donné, parfois, la lassitude, l'envie de retourner dans la vie privée. Moi, j'étais commerçant. Ça vient à l'esprit, tout ça, évidemment. D'avoir parfois un week-end, etc. D'un autre côté, ceux qui sont restés sont très motivés. Plus qu'il y a 6 ans. Vous savez qu'on étudie avec le CEVIPOF. Parce que c'est un mandat qui est formidable. C'est un mandat qui est... Alors, tout est plus difficile qu'avant. Moi, j'ai un peu d'expérience en la matière. Les projets sont plus longs, plus compliqués et plus chers parce que on nous a enfoncé dans le 100 000 feuilles administratives. C'est-à-dire que c'est nous, d'ailleurs, l'AMF qui avions dénoncé au moment de la loi NOTRe, la loi MAPCAM, enfin, toutes ces lois avec des acronymes abominables, toute la complication que connaissent les chefs d'entreprise, les présidents d'associations. Tout est plus long, plus compliqué, plus cher. Parce qu'il y a plus de bureaucratie, parce qu'il y a trop de réglementations, trop de procédures. On est dans la schématocratie. On passe notre temps à faire des schémas directeurs, etc. Et ça, c'est la première source de démotivation. Mais d'un autre côté, c'est vraiment une communion. C'est physique, le mandat de maire.
Vous-même, David Lisnard, vous êtes candidat à votre propre succession.
Je ne l'ai pas encore posé. C'est pas une coquetterie de ma part ici. C'est que je prendrai ma décision, je la dirai aux Canois, dans le cadre Canois. Il faut en parler chez soi d'abord, parce que ça engage votre entourage aussi. Et laissez-moi déjà vivre mon congrès des maires.
Qu'on va suivre, évidemment, sur BFM TV. Merci à vous, David Lisnard, d'être venu justement au matin de ce congrès des maires qui s'ouvre tout à l'heure. David Lisnard, maire de Cannes et président de l'AMF. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50,
face à Canteloup.
Tous les jours sur RMC, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, David Lisnard était mon invité. Jean-Louis Borloo, tiens. Vous avez écouté avec attention, David Lisnard. Qu'est-ce que vous
en avez pensé? Bonjour, je suis d'accord avec Lisnard. Il a raison, Lisnard. On est sur la même longueur d'onde, le même constat. Il y a trop de normes. Faut arrêter avec ce millefeuille. Il l'a dit, les plats paperasses, la schématocratie. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis d'accord avec lui. Le problème de Lisnard, c'est sa méthode. Il est trop radical, tu vois. Il est trop calme. Moi, je dis que Lisnard, on le voit, c'est le Javier Milei de Cannes. Il veut y aller à la tronçonneuse. Moi, je dis, il faut faire la méthode douce, il faut y aller au couteau à beurre. Il faut que ça glisse.
Merci beaucoup, Jean-Louis Borloo. C'est vraiment sympa d'être passé. Thibaut Texer nous a rejoint pour les titres de l'actualité. Bonjour, Thibaut.
Oui, bonjour, Apolline. Après la fusillade sur un point de deal à Grenoble où un enfant de 12 ans a été grièvement blessé, le patron du BHV, Frédéric Merlin, s'est réjoui en constatant qu'il n'y a pas que Chine qui fait travailler des enfants. Et puis, États-Unis, Donald Trump décide d'interdire l'entrée sur le territoire américain aux personnes obèses. Du coup, les Américains sont nombreux à annuler leurs vacances à l'étranger de peur de ne plus pouvoir rentrer dans leur propre pays. Tout de suite, la réaction de Pascal Pro.
Hey, bonjour mon cher Thibaut. Il est où Thibaut? Il est là. Je trouvais qu'il avait rapetissé. Je suis un peu déçu par Donald Trump, que voulez-vous? Pourquoi discriminer ainsi les gens en fonction de leur tour de taille alors qu'il y a tellement d'autres critères plus recevables comme, je ne sais pas, l'origine, la religion, la couleur de peau, par exemple, au hasard. Il y a des gens très bien qui aiment manger du cassoulet, du pâté, qui sont tout à fait pourtant fréquents. Ils sont même des icônes nationales. Regardez, genre de par Dieu. Ben oui. Faut pas les chercher très loin.
Merci, Pascal. Et puis, libéré par le Venezuela, l'otage Camilo Castro a déclaré à son arrivée à Orly: puissent tous les êtres sur cette terre vivre libres de toute souffrance, loin de la guerre, dans la paix et dans l'amour. Voilà, donc après cette déclaration, Camilo Castro est donc le grand favori pour l'élection de Miss France 2026. Tout de suite, la réaction de Jean-Luc Mélenchon.
Le français Camilo Castro, mais quel abruti, faut vraiment être con. En plus, quand on s'appelle Castro, vouloir rentrer en France au milieu du bordel ambiant de Macron, alors qu'on a la chance de vivre dans un magnifique pays de gauche, comme le Venezuela, qui est quand même un modèle de dictature apaisée. De toute façon, il aura l'air malin, le Castro. De toute façon, quand je serai élu en 2027, la France, ce sera le Venezuela. Voilà. Donc, c'est un aller-retour pour rien. Voilà.
Ça fait envie. Merci à tous. Emmanuel Macron était avec Volodymyr Zelensky hier. Monsieur le Président, la France a vendu 100 rafales à l'Ukraine.
Vous me faites sourire, Apolline. Vous êtes naïve. Vous pensez vraiment, chère Apolline de Malherbe, que l'Ukraine a les moyens de nous acheter 100 avions avec leur pays en ruine et,
non, j'avoue, j'avais un doute.
Et leur billet de banque en papier crépon? Non. Ça, nous acheter des rafales, ils veulent bien, les Ukrainiens. C'est pour nous les payer. Ils sont là beaucoup moins chauds. Et puis, moi, je veux dire une chose, chère Apolline de Malherbe, je n'ai pas envie de leur offrir mes rafales. En 4 ans, nous, la France, nous avons quand même donné pour 20 milliards de matos, que du militaire et du haut de gamme. Et qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec tout ça? À regagner 2 pâtés de maison à Mariupol et 3 hectares de champs de patates dans le Donbass. Donc, moi, je vous le dis franchement, cette fois-ci, je vais être payé par l'Ukraine et je veux des garanties.
Alors, c'est d'ailleurs pour l'instant juste une lettre d'intention.
Oui, ben, ça, c'est juste une lettre d'intention, vous avez bien raison. Là, on est juste au début. Puis je peux vous dire qu'avant de livrer, Volodymyr, je vais lui demander son RIB, sa pièce d'identité, un justificatif domicile et ses 3 bulletins de salaire.
Les 3 derniers.
Et puis, je vais vous dire une chose, je ne fais pas de crédit, je le tiens à Volodymyr. C'est pas la peine qu'il mette son t-shirt vert pour jouer au gars de cet élève.
Merci beaucoup, monsieur le président. Hier, c'était l'ouverture du sommet de Choose France. Je crois vous reconnaître. C'était le grand salon donc pour promouvoir l'investissement des entreprises en France. Je crois avoir entendu Arnaud Montebourg.
Bonjour. Oh, tu as l'oreille, tu as l'œil. Voilà, Pauline. Oui, écoutez, heureusement, franchement, qu'on a Choose France. Alors, je précise, Choose, ça ne veut pas dire chaussure.
Non.
Ça veut dire choisir la France. Et ça, je le dis,
C'est un beau projet pour une entreprise étrangère que de vouloir s'installer en France.
Oui, sauf que là, c'était quand même, il n'y avait pas d'entreprise étrangère, Monsieur Montebourg. C'était un sommet Choose France pour les Français, pour que les Français restent en France, investissent en France.
Non mais attends, Apolline, t'es sérieuse?
Ah bah oui, très
bien. Non mais tu déconnes ou quoi là? T'es en train de me dire qu'on a fait un Choose France pour nous-mêmes, nous les Français?
Oui.
Pour éviter que nos patrons français se barrent de la France, c'est ça? Non, parce que là, je te rappelle que le but à l'origine, c'est quand même faire venir les patrons étrangers chez nous. Alors je t'explique, il y a une méthode très simple, parce que moi j'ai quand même un merci, t'as un gars du haut niveau dans le coin.
Bien sûr, très haut niveau.
À l'époque, je t'explique, je prenais un autocar, je remplissais deux petits patrons japonais, après... Tu les emmènes au Folie Coquine à Pigalle, tu leur bourres la gueule au champagne, et derrière, je peux te le dire, ils te signent n'importe quoi. Avec ça, j'ai réussi quand même à leur faire ouvrir une usine de décapsuleurs à Charleville-Mézières. Tu vois le truc?
Alors
qu'un patron français, on le sait, il connaît l'arnaque. Même bourré, tu pourras jamais lui faire oublier qu'en France, il y a 50% de charges sociales. Voilà.
Merci, monsieur Montebourg. Un plaisir de vous avoir accueilli. On va rester dans l'économie du foot avec Kylian Mbappé. Bonjour, Kylian.
Oui.
Vous êtes devant les prud'hommes de Paris pour réclamer au PSG le versement de 55 millions d'euros d'impayés.
Bon, mais attendez, on ne sait pas si pourquoi, là. J'ai jamais demandé 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain. C'est faux. C'est 55 864 712 euros et 22 centimes.
Ah oui.
Mais oui, c'est important d'être précis parce qu'après, je passe pourquoi, moi.
Attendez quand même, Kylian. C'est peut-être légitime. Enfin, vous comprendrez que c'est quand même un peu choquant de réclamer une telle somme au prud'homme. Surtout maintenant, on parle même de 263 millions d'euros.
Bon, ben, je vois bien que c'est des sommes importantes, que les juges des prud'hommes, ils sont un peu paumés, ils n'ont pas l'habitude de ce genre de sommes. C'est pour ça que moi, les juges, pour qu'ils se posent moins de questions et qu'ils se sentent plus à l'aise, j'ai proposé de racheter le tribunal.
Ah oui, c'est malin.
Les murs, le fonds de commerce aussi, je reprends même tout le personnel. J'ai l'habitude, quand je vais en boîte de nuit, je la privatise. Ben là, c'est pareil, le tribunal, je privatise. Comme ça, on est tranquille, on fait un carré VIP avec les juges, les assesseurs, la greffière, on s'arrange, quoi. Il me reste plus qu'à faire d'Avenir Guetta, mais David Guetta, je fais venir à mes frères, il n'y a pas de souci.
Ah, c'est sympa, merci beaucoup. Merci, monsieur Mbappé, et merci, Nicolas, face à Fontlou, qu'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast dans un instant les GG. Alain, c'est quoi le programme?
On va revenir sur un nouveau problème au Louvre. On ferme une galerie parce que le plafond du dessus est fragile. Le Louvre, un naufrage français, 32-16 pour en parler avec les GG.